part des communications sous un titre un peu générique, le regard médical et médiatique, mais je crois que en fait, il a toujours été un petit peu difficile de trouver des intitulés qui puissent correspondre très exactement à chacune des parties de ce colloque, séminaire. Toujours est-il que nous commencerons par examiner une société assez particulière et sans doute qui avait une importance tout à fait grande dans la société au XIXe et XXe siècle, la société militaire. Et avec, par Dominique Khalifa, qui est professeur à Paris 1, la situation des délinquants et des détenus militaires sous l'œil des médecins, donc au XIXe et XXe siècle. Et donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Et peut-être d'abord mes excuses aux organisateurs de cette manifestation pour être un peu responsable de la perturbation de l'ordonnancement et peut-être aussi de ce que vous pointez sur le caractère hybride du programme de l'après-midi. Parce que la demande initiale qu'on m'avait demandé portait sur en fait l'analyse journalistique, le regard médiatique sur le criminel ou sur les experts des crimes. C'était une façon évidemment intéressante de croiser un peu plus davantage les regards que cette journée entend mener. Or, il se trouve que cette question des représentations médiatiques, journalistiques et du crime et des experts et de l'ensemble du procès pénal ou de ses différents protagonistes, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a longtemps intéressé, sur lequel j'ai beaucoup écrit, mais sur lequel j'ai plus travaillé récemment, et j'ai pas eu envie, je m'en suis ouvert à Frédéric Chauveau et à Anne Bonnefoy de revenir sur une question sur laquelle j'avais rien produit de neuf depuis quelque temps. Donc je leur ai proposé de présenter autre chose, c'est-à-dire un travail actuel, un travail en cours. J'ai toujours le sentiment qu'on est plus porté, qu'on est meilleur sur les choses qui sont en train de se faire que sur les choses qui ont été faites autrefois. Et ça explique aussi peut-être pourquoi le médical et le médiatique se croisent de façon peut-être pas aussi harmonieuse que souhaité dans le titre de cette première séance. Or, il se trouve que précisément que l'objet de cette nouvelle recherche, qui est consacrée en fait aux détenus militaires en France et aux formes de la répression disciplinaire et pénale dans l'armée française au XIXe et XXe siècle, un travail récent que j'ai maintenant fini, m'a amené à rencontrer beaucoup de médecins, beaucoup d'experts, officiers de santé, médecins-majeurs, aides-médecins-majeurs, donc d'autres experts qui ont été jusqu'ici relativement peu, voire pas fréquentés par l'historiographie, et que cette question me paraissait peut-être intéressante. Et c'est cette question que j'ai proposée aux organisateurs de cette journée d'aborder aujourd'hui. Je les remercie d'ailleurs d'avoir accepté, au risque de perturber un petit peu le plan préalable de la journée. Donc sur cette question des médecins et des experts confrontés à des lectures à leur lecture de la délinquance, de la pénalité, de la criminalité militaire, je me bornerai dans les 25 minutes qui me restent à trois séries de remarques d'inégale ampleur, d'inégale importance, et vous comprendrez pourquoi. Je voudrais très brièvement commencer, parce qu'on ne comprendrait rien autrement, par une brève présentation du dispositif punitif. Je n'ai pas trouvé de meilleur terme parce qu'il est à la fois pénal et disciplinaire, donc du dispositif punitif de l'armée française contemporaine, un dispositif très compliqué, très complexe, aujourd'hui complètement oublié. On n'a plus du tout une conscience de ce qui, pendant un siècle et demi, a constitué le dispositif militaire, ce qu'en langue militaire on appelait les corps spéciaux, c'est le terme officiel, ce que les journalistes ou les antimilitaristes préféraient appeler par le nom plus suggestif de bagne militaire. Est-ce que l'opinion publique et la culture a, pendant un bon demi-siècle, le terme là aujourd'hui c'est encore effacé, retenu sous le nom de biribi. Dans un deuxième temps, très brièvement aussi, je ferai un très bref retour sur la place mal connue elle aussi, des médecins et des experts dans cet univers. Et puis surtout, et j'essaierai de développer ça, c'est surtout ce que je voudrais développer, j'essaierai de caractériser le regard de ces experts et de ces médecins sur la question des délinquants et des criminels militaires. En tout cas, de ceux, de ces médecins qui ont laissé des traces sur cet univers, en essayant de montrer comment leur regard complexe oscille en permanence entre la suspicion d'une part, le rejet horrifié d'autre part, et pour terminer, l'exclusion pathologique. Alors sur le premier point, je pense que c'est tellement compliqué, j'ai mis beaucoup de temps avant de décrypter cet univers, que la meilleure façon, c'est de vous montrer un bref diagramme au bout du compte réalisé et qui, je crois, permettra de comprendre à peu près comment les choses se mettent en place. Non, ce que je voudrais, c'est... Non, c'est pleine page. Là ? Non. Non, ça va pas. J'avais tout à l'heure. Voilà. Plein écran. Voilà. Donc, c'est un ensemble qui est très compliqué. Pourquoi très compliqué ? Parce qu'il est le produit, en quelque sorte, d'une accumulation, d'une juxtaposition permanente de corps, d'unités différentes, le tout pendant presque un siècle et demi, qui a effectivement amené à multiplier des unités nouvelles sans pour autant supprimer les anciennes. Je vais aller très vite là-dessus, mais néanmoins, il faut nous donner quelques éléments. Ces corps spéciaux, en fait, se constituent, si on les prend par ordre alphabétique, d'abord de ce qu'on appelle les compagnies disciplines, les corps disciplinaires de l'armée française, fusiliers et pionniers de discipline, créés en 1818, au moment où le maréchal Gouvion Saint-Cyr réorganise complètement l'armée française au lendemain de l'épisode impérial. Qu'est-ce que c'est que les corps disciplinaires ? Ce sont des corps, effectivement, qui accueillent les soldats indisciplinés, je veux dire par là les ivrognes, les fortes têtes, les jeunes conscrits qui pensent échapper au service militaire en s'auto-mutilant, en précisant quelque chose d'extrêmement simple, ces soldats n'ont commis aucun crime et aucun délit. Ils ne sont pas passibles du code de justice militaire, ils ne sont pas passibles des conseils de guerre. Ce sont simplement des indisciplinés qui sont indisciplinés à tel point qu'à un moment, effectivement, leur hiérarchie les invite à pense qu'il faut les écarter des unités régulières où ils propagent le mauvais exemple. En fait, ils changent de nom en 1910, ces corps disciplinaires deviennent sections spéciales, mais en fait, elles vont subsister en s'éteignant peu à peu jusqu'au début des années 70. La dernière section spéciale a été fermée au début des années 1970 dans le fort d'Eton en Savoie. Donc, des simples disciplinaires. Qui ne sont évidemment des gens qui n'ont jamais été condamnés. Ce ne sont pas des condamnés. La caractéristique de cet univers, c'est qu'après 1830, effectivement, ils s'installent en Afrique du Nord où ils restent jusqu'en 1910. Mais ces corps spéciaux, c'est aussi, bien sûr, tout ce que vous voyez sur le côté droit du diagramme, tous les militaires condamnés par des conseils de guerre, c'est-à-dire qui ont commis des délits ou des crimes militaires dûment répertoriés par le code de justice militaire et qui passent donc en conseil de guerre et qui, à l'issue du conseil de guerre, sont envoyés soit dans une prison militaire, les peines inférieures à un an, soit les peines civiles inférieures à un an, soit dans un pénitencier militaire, soit dans un atelier de travaux publics. Il y a toute une variante. Ce sont donc les établissements pénitentiaires de l'armée française. Autre corps dont il faut dire un mot, créé en 1860 pour ce qu'on appelle les compagnies disciplinaires des colonies, qui sont d'autres formes de disciplinaires, mais qui sont des corps extrêmement hybrides. En fait, ce sont des corps dans lesquels on va envoyer et des disciplinaires et des condamnés. Sur quelle logique ? La logique de la dangerosité, hein, les condamnés les plus vicieux, avec les guillemets là où il le faut, et les plus pervertis de ces individus. Ces corps spéciaux, ce sont encore les exclus, que vous voyez effectivement fondés en 1889. Qu'est-ce que c'est que les exclus ? Ce sont les jeunes Français, condamnés au civil par les cours d'assises, donc des hommes jugés indignes en principe de porter les armes, mais qu'on incorporait néanmoins à l'issue de leur peine, par souci d'égalité républicaine, dans des corps à la fois dans l'armée, mais exclus de l'armée au titre civique. À cet ensemble, il convient également d'inclure les très célèbres bataillons d'Afrique, bataillons d'infanterie légère d'Afrique, créés en 1832, et installés d'entrée de jeu en Afrique du Nord jusqu'à leur extinction, là aussi, au début des années 70. C'est très différent, c'était des corps combattants, ce qui n'était pas le cas des autres corps. Ils ne faisaient donc pas partie, a priori, du monde pénitentiaire, oui, hein, sauf que ces corps étaient pensés comme des corps d'épreuve, c'est-à-dire des corps où on envoyait, à l'issue de leur peine, tous les autres types de disciplinaires ou de détenus que j'évoquais tout à l'heure et qui finissaient nécessairement leur temps dans ces corps d'épreuve avant de mériter gagner un autre corps. Rajoutons aussi, et c'est tout à fait important, qu'à partir de 1889, donc de la loi militaire de 89, on y envoie également tous les jeunes conscrits qui ont subi avant leur incorporation des peines correctionnelles ou tout jeune conscrit qui, au moment de son incorporation, se trouve en prison. Donc, des corps très hybrides dans lesquels, effectivement, la logique disciplinaire et la logique pénale tend progressivement à prendre le dessus. C'est très compliqué. Et pour les gens, globalement, pour les contemporains, en dehors des spécialistes, on ne percevait pas l'ensemble de ces nuances. On retenait surtout les similitudes. Les similitudes, c'était la communauté de destin qui unissait tous ces hommes, la sévérité des peines, l'arbitraire des peines, l'Afrique du Nord, l'Afrique lointaine, l'Afrique aride, l'Afrique désolée, le travail harassant sous l'autorité de gradés brutaux et irascibles, et puis le fait que, je n'ai pas le temps d'y venir, mais c'est tout à fait intéressant, qu'une fois entré dans cet univers-là, on tournait, on pouvait effectivement pendant très longtemps tourner d'un corps à un autre et passer finalement beaucoup de temps à Biribi. Rajoutons enfin un dernier point, tous ces corps sont organisés sur la même logique, celle du détachement, c'est-à-dire que ce ne sont pas des prisons la plupart du temps, il y a bien sûr un point central, mais c'est pour la plupart d'entre eux, à partir d'une portion centrale, des détachements, des camps itinérants hein, qui vont effectivement se mettre en place par groupe d'une quinzaine, d'une vingtaine de détenus ou disciplinaires sous l'autorité d'un gradé, d'un sous-officier. Un mot enfin pour terminer là-dessus, pour préciser que ce monde, cet univers très complexe, s'il est aujourd'hui oublié, et fondamentalement oublié, a constitué une réalité numérique substantielle au XIXe siècle et au XXe siècle. Je ne suis pas un fanatique des chiffres, mais je crois qu'il y a quand même quelques points qu'il importe de signaler. À l'apogée de ce système, c'est-à-dire pour aller vite entre 1880 et 1920, cet ensemble représente environ de 12 à 15 000 soldats par an. 12 à 15 000 soldats par an. En 1914, on est à 20 000 détenus en France. Hein, vous voyez, 12 à 15 000 soldats par an, ça représente en moyenne entre 1 et 1,5% de l'armée française et entre 10 et 15% de l'armée d'Afrique. Au total, les comptages sont assez amples, mais néanmoins, c'est autour de 800 000 jeunes Français qui sont passés par Biribi. Donc, c'est donc une réalité qui a été substantielle dans l'histoire de la France contemporaine. Les médecins, là-dedans, Biribi, comme toutes les autres institutions pénitentiaires, comme tous les autres bas-fonds pensés dans la culture et dans l'imaginaire français, ont joué un rôle tout à fait fondamental. Et bien sûr, ils ont déployé une intense activité. Ils sont présents sur le terrain, effectivement, puisqu'au terme du règlement, un médecin militaire, officier de santé, médecin-major ou aide-médecin-major, doit être présent dans les unités importantes. Dans les prisons militaires, ce n'est pas dit. Il y en a beaucoup en France. En Afrique du Nord, c'est beaucoup moins le cas. Ce que dit le règlement, c'est qu'il doit y avoir une infirmerie et qu'un médecin militaire doit effectuer au moins une visite quotidienne. En réalité, ça sera beaucoup moins dans les infirmeries situées dans les portions centrales. Dans les camps extérieurs, et c'était bien sûr la réalité majeure de ce fonctionnement, dans les camps extérieurs, sur les chantiers ou dans les détachements, c'est beaucoup plus rare, les médecins ne sont généralement pas présents, même si le règlement prévoit que l'entrepreneur doit assurer le service médical. Il arrive qu'un médecin major passe parfois, c'est beaucoup moins fréquent. En revanche, dans les bataillons d'infanterie légère, qui étaient des unités assez importantes, un médecin était généralement associé à chaque unité. Précisons que le docteur Lacassagne, avant de devenir le célèbre médecin et anthropologue et entrepreneur de la médecine légale et de l'anthropologie criminelle en France, a passé 3 ans comme médecin major au 2e bataillon d'infanterie légère d'Afrique, dont il a ramené d'ailleurs un livre majeur sur les tatouages, dont je dirai un mot tout à l'heure. Ces médecins ont beaucoup écrit. Heureusement pour moi, ils ont été. Les médecins, bien sûr, en règle générale, écrivent beaucoup. La médecine, écrivait récemment Jean-Pierre Péter, c'est d'abord une bibliothèque qui ne cesse de s'accumuler. Bien sûr, rien ne prouve que la plupart des médecins qui ont effectivement joué un rôle majeur dans les unités disciplinaires dont j'ai tenté de reconstituer le destin, aient été toujours ceux qui écrivent. Une distinction majeure, effectivement, se doit se mettre en place. Et effectivement, j'essaierai d'évoquer tout à l'heure que tout ce qui passe à travers les nombreux écrits de ces médecins ne rend peut-être pas compte des réalités pratiques de l'exercice de la médecine dans ces unités. Reste qu'ils sont très présents, ils écrivent beaucoup, émettent des avis, écrivent des rapports, écrivent des articles, écrivent des mémoires qui effectivement sont tout à fait fondamentaux. Si je veux essayer de caractériser le regard majeur qui émane sur cet univers très complexe de ces médecins, c'est effectivement 3 termes qui ont retenu mon attention. D'abord celui de la suspicion. Ces médecins sont très présents. À l'arrivée dans les corps spéciaux, ils examinent les hommes. Tous ces hommes ont été décrétés nécessairement bons pour le service. Et les quelques clichés photographiques qui nous sont parvenus montrent des hommes, effectivement, aux épaules solides, aux torses bien découplés. Et les conclusions des médecins vont généralement dans cette voie, même si, effectivement, quand on regarde un petit peu plus précisément les rapports d'inspection dans les bataillons d'Afrique, qui sont les plus détaillés, on s'aperçoit que les médecins sont peut-être un petit peu moins optimistes au bout du compte. Au 3e bataillon d'Afrique, par exemple, c'est près de un tiers, en 1895, c'est presque un tiers du contingent qui est déclaré de constitution faible, avec un périmètre thoracique inférieur à 0,85, etc., etc. Plus d'un tiers est dit lymphatique, etc. Beaucoup ont des antécédents pathologiques. Bon, bref, ils font à cet échelon local tout à fait bien leur travail, insistant sur les antécédents, l'alcoolisme, les maladies nerveuses, etc. Insistant aussi sur ce qui, dans les nouveaux espaces, entendons l'Afrique du Nord, sont ceux de ces soldats auront vite fait de ruiner leur santé, le climat, bien sûr, j'y reviendrai tout à l'heure, le régime alimentaire, les punitions, dont on signale effectivement qu'ils vieillissent prématurément, ces hommes. Dans les ateliers de travaux publics, je cite un médecin, les hommes de 30 ans en paraissaient 40 et ceux de 40 semblaient des vieillards. Je passe sur les maladies et les conditions physiques et les maladies pour signaler qu'au bout du compte, ce qui m'est apparu le plus caractéristique dans l'analyse que ces médecins pouvaient porter sur les détenus militaires, c'est, outre l'espèce de hyper-focalisation sur tout ce qui relève des maladies liées à la sexualité et à l'exercice de la sexualité, c'est une forme de suspicion généralisée et immédiate qui n'est pas nécessairement liée très spécifiquement à cet univers-là, qui, je crois, est une donnée qui est relative à l'ensemble des pratiques d'enfermement et à l'ensemble de l'exercice de la médecine en milieu carcéral, même si, je dois le dire en le regrettant, on n'a pas, pour le 19e siècle, en dehors d'un article pionnier de Jacques Léonard en 1984, on n'a pas pour le 19e siècle d'analyse aujourd'hui, à ma connaissance, vraiment, vraiment suffisante sur l'exercice de la médecine en milieu carcéral pour le 19e siècle. Reste effectivement que ce qui va le frapper surtout, c'est le fait que pour la plupart de ces médecins, ces hommes sont d'abord et avant tout, et c'est peut-être ce qui les obsède de plus, des simulateurs. Le premier réflexe, effectivement, qu'on a face à une maladie dans les corps spéciaux, c'est de se dire, effectivement, qu'il faut élucider d'abord la simulation auquel... toute proportion gardée, on est un peu devant cette considération qu'ont les philanthropes du début du XIXe siècle devant les pauvres. Tout pauvre est d'abord un pauvre dont il faut suspecter la pauvreté effective. Pour Abiribi, tout malade est un individu pour lequel, effectivement, on va d'abord et avant tout suspecter la simulation. Ce qui nous donne, effectivement, des pratiques médicales, des rapports médicaux, surtout des livres publiés par les médecins, qui ne parlent presque exclusivement de cette pratique qu'on appelle dans le langage carcéral le maquillage, hein, et qui consiste effectivement à lister pendant des pages et des pages l'ensemble des moyens, des trucs, des abominations par lesquels effectivement les détenus vont se rendre malades, vont se mutiler, vont se donner la gangrène, etc., etc. C'est véritablement quelque chose qui sature les pages des ouvrages médicaux publiés sur les corps spéciaux. En 1907, le docteur Boisgelé recense 24 mutilations, 11 cas de maquillage dans l'établissement dans lequel il exerçait. Les récits de la plupart de ces médecins signalent les mille et mille moyens de simuler, de s'infliger une maladie, et c'est un véritable morceau de bravoure qui revient absolument dans tous les textes, qu'on convoque en permanence à titre de preuve pour signaler, par exemple, l'insensibilité ou la perversité de ces hommes. À lire ces mémoires ou ces travaux, les corps spéciaux sont une espèce de cours de miracle rempli de raccourcis, c'est ainsi qu'on les appelle, de mutilés, de simulateurs, d'estropiés. Et je ne vais pas évidemment rentrer dans le détail de ces catéchismes de maquillage qui circulent effectivement dans l'ensemble du circuit de l'enfermement, mais qui est beaucoup plus développé dans les corps spéciaux qu'ailleurs, qui est véritablement quelque chose d'abominable et d'horrible dans le type de description. Sans parler effectivement des conséquences médicales réelles, effectives, de ces pratiques sur les disciplinaires. Bref, on n'est jamais malade à Biribi. On est toujours suspect de mystification, ce qui, cela va sans dire, transforme en véritable calvaire le sort des authentiques malades. Ce premier aspect se complète d'un second, qui est que, à tout le moins pour ceux qui écrivent et qui laissent des mémoires importants, et ils sont nombreux, la pratique de l'exercice de la médecine dans ces sociétés est essentiellement et principalement focalisé, omnibulé, presque obsédé par la question des mœurs, par la question effectivement d'un certain nombre de vices, entre guillemets, qui sont de règles dans cet univers et qui vont effectivement provoquer de la part des médecins un rejet absolu de la société qu'ils sont par ailleurs chargés d'examiner et de soigner. Tous les médecins, tous les observateurs dénoncent d'abord évidemment l'homosexualité, comme un des maux qui gangrène le système. Je cite le médecin, le docteur Butaron, qui a passé 10 ans au pénitencier de Bossuet et dans un autre pénitencier. La pédérastie est pratiquée dans tous les établissements pénitentiaires. On a essayé de l'enrayer, de la proscrire, mais les détenus possèdent des ressources diaboliques pour tourner les difficultés, et satisfaire quand même leur démangeaison génésique. C'est là l'une des principales causes de l'insuccès des officiers dans leur rôle moralisateur. La pédérastie et la perte définitive de beaucoup de condamnés. Il y a là, bien sûr, quelque chose qui n'est pas du tout original. On retrouve exactement la même analyse dans les colonies pénitentiaires et dans les établissements carcéraux de métropole. Mais ça atteint, en quelque sorte, un degré de saturation absolue dans l'univers de l'Afrique du Nord, parce qu'on va avancer des arguments spécifiques, effectivement, dans le monde des corps spéciaux. Bon, le premier classique, effectivement, c'est tout simplement, il est défendu plutôt par les militaires. C'est évidemment la question de la nécessité de l'adaptation aux conditions de vie ou d'incarcération de ces hommes dans un univers où l'absence de femmes et le confinement d'hommes jeunes expliquent à leurs yeux le retranchement dans une homosexualité pensée comme une sexualité d'attente ou de substitution. Mais un second argument plus intéressant, moins fréquent, mais en phase avec le virulent racisme qui s'exprime alors à l'égard des populations d'Afrique du Nord, insiste sur les facteurs endogènes, le climat, la lascivité orientale, et l'influence de certaines pratiques que certains disent très répandues chez les indigènes. Je cite le docteur Robière, « Il existe chez les Arabes une atmosphère pédérastique, une propension que les observateurs plus sérieux estiment être de pure vue, mais ils sont néanmoins à la développer. » On évoque aussi le rôle du climat chaud, qui, je cite le même docteur Robière, « diminuant la volonté, joue certainement dans la perversité sexuelle un rôle prépondérant. » Le dernier argument, le plus fréquemment invoqué, chez les médecins en tout cas, ils voient une pathologie et une perversion propre aux hommes tarés qui peuplent les corps spéciaux, une corruption morale, d'être les plus attentifs, qui procède autant de l'oisiveté qui règne dans les établissements que des traditions infâmes, guillemets, cultivés auparavant par ces hommes dans les prisons civiles ou dans les colonies pénitentiaires. Assez que, bien sûr, s'y ajoute toute l'argumentation, elle est très forte chez les médecins, sur le fait effectivement que c'est d'une pression si forte des relations de sexe qu'elles sont capables effectivement à la fois d'être le principal mode d'organisation de la société carcérale et le CAIDA et le principal et de reconfigurer de façon extrêmement nette les relations de genre entre les détenus, redistribuant les rôles de genre en fonction effectivement de la position dans la relation homosexuelle. S'ajoute dans le même ordre d'idée, et ça sature aussi de la même manière le propos des médecins, tout ce qui relève de l'analyse des tatouages. Hein. On sait évidemment, c'est pas nouveau, Lombroso et la Cassagne, d'années d'intervalle, ont insisté l'un et l'autre sur l'importance effectivement du tatouage, à la fois dans l'organisation, le fonctionnement, l'expression des réalités criminelles, mais aussi dans l'importance de cet indice dans la lecture et dans l'analyse et dans l'interprétation de ce qu'est le crime. La Cassagne, qui a exercé, je vous disais tout à l'heure, au tout début des années 80, au 2e bataillon d'Afrique, en fait d'ailleurs un ouvrage important, entreprend un relevé systématique des tatouages de ces hommes du bataillon, le publie en 1881 sous le titre de « Les tatouages, études anthropologiques et médico-légales », qui est sans doute un des livres qui a le plus, en France en tout cas, suscité dans son sillage une infinité de travaux, pour l'essentiel publiés dans les archives d'anthropologie criminelle, mais aussi dans beaucoup d'autres textes, sur les tatouages des bataillonnaires, des disciplinaires, des hommes, des ateliers de travaux publics et d'autres données. Et évidemment, bien sûr, il est tout à fait essentiel de montrer que c'est essentiellement les relations sexuelles qui deviennent, dans l'analyse de ces médecins, le motif et le ressort principal d'une plus grande partie de ces tatouages. Je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je voudrais juste terminer en montrant comment de cette suspicion, de cette lecture en termes de mœurs, dérive aussi à la fin du siècle une lecture assez plus générale venant essentiellement des aliénistes qui vont s'interroger à partir de la fin du 19e siècle, compte tenu de l'importance du nombre de soldats envoyés dans ces bataillons, sur la question effectivement de leur responsabilité. La question est soulevée dès les années 90 par le docteur Pactet, aliéniste à Villejuif, et par le professeur Régis de l'Université de Bordeaux. Les conseils de révision, en d'autres termes, l'institution militaire, ne condamne-t-elle pas et n'entasse-t-elle pas dans l'ensemble de ces corps des individus à la responsabilité atténuée ou à la responsabilité absente? Les corps spéciaux ne sont-ils pas en fait des asiles d'aliénés déguisés que l'armée n'est pas capable de repérer? En 1899, cette question fait l'actualité du congrès des médecins aliénistes de France et l'enjeu est de taille, hein, puisqu'on est à un moment où le service s'est universalisé en France. La justice militaire, les conseils de guerre ne doivent-ils pas suivre les progrès de la justice civile et mettre en œuvre une prophylaxie des maladies mentales comme cela se fait dans les autres pays, en Belgique par exemple, où tout conseil de guerre à cette période, un examen mental obligatoire. Il y a énormément de travaux à ce moment-là. Le professeur Régis compile les données des statistiques judiciaires militaires. Plusieurs médecins, docteur Grandju, docteur Catrin, docteur Cavas, docteur Robière, multiplient les études, les articles. Grandju crée même un journal qui s'appelle le Caducé à partir de 1905, le Caducé, colonie, guerre, marine, qui se fait largement l'écho de ces débats. Et les premières études sont publiées entre 1905 et 1914 pour effectivement souligner l'insuffisante prophylaxie de ces maladies au régiment, avec une morbidité, mentale. Au bataillon d'Afrique qui atteint presque le double et dans les compagnies disciplinaires presque le triple de celles qu'on peut pointer dans les compagnies, dans les unités ordinaires, ce qui va modifier effectivement un certain nombre de regards l'étiologie de cette population. J'essaie d'aller vite pour terminer tout en vous disant l'essentiel. Bien sûr, c'est la question de la dégénérescence qui va être le motif de la dégénérescence qui est à ce moment-là mobilisé le plus fortement par ces médecins, avec l'idée effectivement que l'expérience coloniale, notamment dans ces corps, en accroît la tension nerveuse et est capable effectivement de faire ressurgir des attitudes ou des données de dégénérescence qui jusque-là étaient demeurées silencieuses ou latentes. Et un très grand nombre de travaux vont effectivement se développer en ces données, aboutissant la plupart du temps à des demandes d'exclusion pure et simple pathologique de ces individus. Je voudrais terminer brièvement en disant la chose suivante. Les sources que j'ai utilisées ne me permettent pas la plupart du temps de voir dans le détail la pratique médicale au bataillon, dans les infirmeries de la plupart de ces médecins. Certains, effectivement, et il faut bien sûr leur rendre justice, ont été des artisans importants effectivement pour apaiser, adoucir et effectivement être des recours importants aux souffrances fortes de ces hommes. D'autres, nombreux aussi, en tout cas dans ce que les rares archives disponibles m'ont permis de voir, ont pu effectivement être des relais importants vers des enquêtes pour dénoncer le manque d'hygiène, l'insalubrité, les conditions déplorables de d'hébergement ou de d'autres encore, peu nombreux, ont fait remonter des plaintes jusque vers le ministère, d'autres ont participé aux rares commissions d'enquête, mais ils sont très peu nombreux. Et ce qu'on peut dire, c'est que le grand mouvement qui, à partir de la Belle Époque, va se développer pour dénoncer, contester, réformer et finalement mettre fin à l'ensemble de ces corps spéciaux, mouvement long, mais néanmoins, les médecins vont quand même briller par leur absence, et c'est la plupart du temps d'autres acteurs, de journalistes, de militants, d'hommes politiques, que parviendront les initiatives majeures. Marc Renneville, dans son livre « Crime et folie », pointe avec raison, en tout cas c'est un des aspects qui m'ont le plus intéressé, ce phénomène d'acculturation réciproque qui progressivement dans le courant dans la seconde moitié du 19e siècle intervient entre les magistrats et les médecins. Il est peu de dire que ce phénomène d'acculturation n'existe pas pour les médecins militaires et que si quelque chose doit être pointé, c'est au contraire et tout à l'inverse une extrême intériorisation de la norme militaire par l'ensemble des officiers de santé qui ont, dans la majeure partie des cas, été beaucoup plus, en tout cas dans leurs écrits et dans leurs paroles publiques, ont été beaucoup plus des officiers que des médecins.
Bien désolé d'être toujours aussi brutal quand je préside des débats, mais je crois que finalement, il y a peut-être sur ces systèmes un petit peu, qui étaient des systèmes de bagne, peut-être des gens comme Albert Londres que l'on pourrait l'évoquer uniquement pour faire la transition avec ce qui va nous être présenté maintenant par Geoffrey Fleuriot, qui est doctorant en histoire contemporaine et qui a un petit peu modifié l'intitulé de sa communication, Un regard sous influence, le journaliste local face aux voleurs de l'entre-deux-guerres, la place du discours expertal dans le paysage criminel de l'entre-deux-guerres. Et donc là, nous allons passer en effet à ce regard médiatique.
Voilà, donc merci. Donc j'ai décidé de faire un petit peu évoluer mon intervention justement pour mieux rentrer moi dans le cadre regard médical et médiatique. Donc le XXe siècle avait une forme d'aboutissement de la lente et décisive imprégnation du discours des experts sur l'ensemble des débats tenus dans la sphère publique. Donc cette réalisation, on peut dire qu'elle s'est effectuée parallèlement au mouvement de démocratisation complet de l'information qui a abouti à créer notre société actuelle, dite de communication de masse, où chacun est désormais censé se prétendre mieux informé que son voisin. Donc de la politique au cinéma, des sentiments amoureux au bulletin météorologique, l'actualité ne se conçoit plus sans cette parole expertale, grand manitou un petit peu de l'idée du savoir moderne. Donc on peut y voir également la réussite d'un long processus, celui de la volonté manifestée du corps social, d'un espèce de grand positivisme général qui cherche à substituer aux croyances, aux coutumes, aux intuitions, souvent d'ordre personnel ou confinées dans des microcosmes des communautés restreintes, l'établissement désormais de lois, de règles, de vérités, le mot est dit, hein, pour expliciter et rendre cohérent l'inexplicable et le chaos. Au niveau de l'inexplicable et du chaos, on peut dire que le domaine de la délinquance et de la criminalité offre un champ d'observation très étoffé. Donc la presse de l'entre-deux-guerres, elle met en lumière un média et un temps très particulier pour pouvoir apercevoir les évolutions de ce regard à nous qui sommes aujourd'hui reconnus également comme des experts dans chacune de nos spécialités. Donc elle me permet d'observer une période charnière de transformation du discours médiatique qui aboutira à ce que l'on connaît aujourd'hui hein, dans notre société du tout expertal. Donc cette période de mutation est caractérisée encore par la dualité des discours qu'on peut y lire et aussi par les formes de résistance de certains devant l'inéluctabilité de ces changements. Donc on observe ainsi une difficulté véritable d'inscrire le discours expertal dans la presse, mais également une difficulté pour l'entendre dans les prétoires de l'époque. Donc j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, de faire évoluer un petit peu mon intervention afin de mieux répondre à l'axe regard médical et médiatique. Donc dans un premier point, je vais essayer de regarder un petit peu la faible place qui est faite à cette parole expertale dans le cadre très spécifique de mon étude qui concerne donc les articles d'atteinte aux biens publiés par la presse locale. Et dans un second temps, je vais essayer de voir l'enjeu représenté par le corps criminel malade dans les prétoires de l'entre-deux-guerres et les transformations induites par la parole de l'expert dans la façon de juger, mais surtout de condamner le voleur. Donc un premier point, le silence du médecin légiste, le discours expertal, un contresens dans la presse locale des années 30. Donc le regard des experts dans la presse de l'entre-deux-guerres est assez faible, pour ne pas dire inexistant. Donc c'est un constat assez brutal, mais que j'ai quand même essayé de développer un petit peu. Il révèle surtout des phénomènes de concentration de la presse sur quelques protagonistes bien spécifiques, desquels l'expert est exclu. Pourtant, par leur complexité, les affaires de vol nécessitent, afin d'être correctement jugées, une quantité de connaissances multiples que ne possèdent pas forcément les hommes de justice, obligés alors de s'adjoindre des auxiliaires. Donc cette nécessité renvoie aux diverses formes que prend le vol, dit de ruse, donc surtout les escroqueries, les abus de confiance, qui sont souvent extrêmement proches d'opérations légales. Donc afin de définir le caractère illégal d'un acte, il est ainsi parfois demandé de procéder à une expertise graphologique pour déterminer les faux. Donc elle peut être menée soit par l'archiviste départemental, soit par un professeur de lycée, soit dans une grande affaire d'escroquerie commis par un huissier, par le célèbre, je cite, par le célèbre docteur Locard du laboratoire technique de Lyon en 1935. L'expertise peut aussi porter directement sur les opérations effectuées. En 1933, ainsi devant les assises, un expert comptable est interrogé sur la légalité de diverses opérations opérées par un directeur de banque accusé de détournement. Tandis qu'en 1935, il est demandé dans un procès pour détournement de gaz, je cite, à M. Papillon, ingénieur à la compagnie du gaz, il a été appelé en qualité d'expert afin de donner au tribunal la durée approximative de cette installation en se basant sur le degré d'oxydation des pointes ayant servi à fixer le plomb supplémentaire. Donc ici, l'expert bénéficie surtout d'un empirisme professionnel sur des questions qui, mis à part la conjoncture précise de ces délits, apparaissent assez loin des questions de criminalité. Donc cette parole reste encore largement minoritaire dans la presse, puisqu'elle concerne des cas, comme vous l'avez vu, extrêmement particuliers d'abus de confiance, des conflits sans aveu, et pour lesquels les hommes de justice ne disposent pas des compétences techniques nécessaires pour pouvoir les juger. Donc cette double, voire cette triple nécessité, fait qu'il se chiffre à quelques cas seulement durant l'époque. De plus, la parole des experts concerne ici des affaires assez embrouillées, hein. Des abus de confiance entre professionnels qui passionnent assez peu le public, hein, pour reprendre un néologisme, des affaires qui ne sont pas très sexy, et donc de fait qui ne sont très peu vendeurs pour la presse. Donc même si l'on reconnaît, je cite, l'aide efficace qu'il a apportée à la justice, en citant par exemple l'intervention du juge dans l'affaire de gaz citée précédemment, l'expert est ici peu mis en avant et sa parole peu développée. Donc pour voir affluer la foule dans les salles d'audience, et donc pour susciter parallèlement l'intérêt médiatique, la presse précise que le public a besoin de crimes et surtout a besoin de sang. Donc un expert pourrait apparaître au centre de ces questionnements, c'est bien sûr le médecin légiste. Son rôle concerne dans mon corpus uniquement les cas de vol commis avec meurtre, ce qui restreint les milliers d'affaires entrevues à une dizaine de cas seulement. Le médecin légiste est par contre généralement simplement mentionné à titre informatif, sans développement particulier sur la nature et le résultat de ses activités. Le corps autopsié demeure en partie caché au lecteur. Lorsqu'il n'est pas complètement absent de l'article, il est traité comme une information secondaire. Donc cette réticence qu'on observe dans la presse, on ne peut pas l'expliquer par une forme de dégoût ou de répulsion envers la mort des victimes, si l'on en juge par la récurrence des descriptions de corps saccagés observées directement par les journalistes. En effet, aux constatations techniques des autopsies, Les journalistes préfèrent, eux, replacer le corps de la victime à l'endroit où il a été découvert, généralement à l'intérieur de son habitation. Le lecteur peut ainsi contempler les alentours de la scène de crime, les vestiges éloquents de la violence et de la monstruosité du geste criminel. Donc les mares de sang dégoulinent sur le plancher, les lambeaux de chair se dispersent sur les meubles et les murs. Les journalistes vont insister particulièrement sur l'aspect dégoûtant et immonde de ces découvertes. Je les cite. On a retrouvé un visage complètement défiguré, le nez, le menton, les joues n'étaient plus qu'une plaie ou brouillée des verres. Autre exemple, le visage a été horriblement mutilé par l'assassin, d'un coup de couteau, suppose-t-on, mais un animal a rongé les chairs et les a déchiquetées. On voit des traces de pattes sanglantes sur le carreau, des rats, croirait-on tout d'abord, mais monsieur le docteur Guillonnet dira bientôt que lorsqu'il a ouvert la porte de la maison du crime, il a vu sortir le propre chat de la victime. Donc ici, le rôle du médecin légiste, hein, monsieur Guillonnet, est cité dans cet article uniquement pour cette anecdote, laissant complètement de côté l'expertise qui sera ensuite faite. Donc, par le langage utilisé, le choix surtout des images décrites, le corps de la victime doit inspirer l'horreur et le dégoût, des éléments qui peuvent souder la communauté dans un même sentiment, hein, celui de la haine du criminel, ce que les précisions neutres, mécaniques, on pourrait dire décontextualisées, des autopsies ne pourraient peut-être pas aussi bien provoquer. Donc cette constatation ne remet toutefois pas en cause le rôle et l'importance de l'autopsie dans la pratique judiciaire dans l'entre-deux-guerres, mais seulement la réception du corps de la victime qui en est ensuite proposée au public. Donc on peut avancer comme explication pour justifier cette faible représentation du regard du médecin légiste. Tout d'abord, une logorée trop technique du discours expertal qui s'oppose à un traitement médiatique de la presse d'alors qui s'appuie essentiellement sur l'émotion provoquée chez le lecteur. Ce besoin se comprend pour un média qui joue constamment sur l'interpellation de son lectorat en le choquant, en le faisant rire ou en l'épouvantant comme on l'a vu ici. Comme l'a remarqué déjà Marine M. Silly dans son étude concernant la presse locale criminelle marseillaise, le sentiment de peur est bien plus répandu dans la presse locale à cause du jeu des proximités des nouvelles publiées. Donc cet accroissement de peur est par ailleurs amplifié par la façon de traiter l'information par les journalistes. En effet, si le regard de l'expert tend à aplanir grâce à ses explications l'angoisse d'une situation, les journalistes au contraire semblent avoir une conscience autre de tous les bienfaits apportés sur le corps social par la tenue d'un langage qui fait appel aux cordes les plus sensibles du lecteur. Ainsi, dans un article daté de 1928 intitulé « Impassible devant le crime » et publié dans les colonnes locales de l'Avenir de la Vienne, un chroniqueur rappelle les risques d'un discours froid entre guillemets sur la criminalité uniquement fait de descriptions neutres. Je le cite. « J'ai connu un temps peu ancien où chaque grand journal avait, outre ses rédacteurs politiques, ses chroniqueurs, dont la fonction consistait à former l'opinion publique et à l'exprimer à propos des événements du jour. Aujourd'hui, nos maîtres chroniqueurs ont disparu. Notre presse prétend n'être plus qu'une presse d'information. Et voilà comment des nouvelles atroces sont publiées avec le plus parfait sang-froid, avec le détachement le plus absolu, comme si elles n'apportaient plus guère que tel ou tel autre incident de la grande comédie humaine. Je demande la permission de ne pas laisser passer sans commentaire un simple, entre guillemets, fait divers que tous les journaux viennent de publier. Dans un paisible village de la banlieue de Paris, au sortir du cinéma, un jeune homme reconduisait chez elle sa fiancée. Ce couple d'amoureux eut la mauvaise fortune de rencontrer 5 individus qui assommèrent d'abord le cavalier, puis emportèrent dans un terrain vague la jeune fille où, à tour de rôle, il lui fit subir d'abominables outrages. Et aujourd'hui, l'on insère ce récit comme s'il s'agissait d'un vol de lapin ou d'une quelconque filouterie, sans manifester la moindre émotion et sans faire remarquer que de tels attentats, beaucoup moins rares que l'on ne le pense, nous font rétrograder jusqu'à la bestialité des temps primitifs. Donc l'avis qui est exposé ici est à l'opposé des écrits passés, et parfois actuels, hein, et généralement actuels, relatifs au rapport entre criminalité et presse, qui s'exprime toujours en termes d'influence négative sur la morale, terme qui a toujours intéressé et qui est par ailleurs fortement développé l'opinion bourgeoise. D'ailleurs, ce matin, on a parlé, plus cité de ce matin, du choc des images au détriment du temps pensé à l'événement. On a parlé du problème des médias. Déjà, à la Belle Époque, le docteur Vigouroux divisait les trois criminels en trois sortes, tous en rapport avec... Les trois criminels, comme tout. Tous les criminels en trois sortes, tous en rapport avec l'influence de la presse. On avait les contagionnés, qui étaient usés par la lecture de la presse, les suggestionnés, les débiles influençables, et les imitateurs, qui se documentaient et se servaient de la presse pour commettre leurs mauvaises actions. Ici, l'extrait que je vous ai lu est à l'opposé de cette situation. Grâce au traitement courant des affaires criminelles, la presse locale s'inscrit à l'inverse de cette conception, pensant la publication de ces affaires comme un vecteur d'une véritable mission d'intérêt public. Donc cette mission se construit tout d'abord autour du renforcement et du développement des relations de solidarité dans la communauté, face à l'ennemi commun, qui est le criminel. Elle doit également favoriser la diffusion d'un système normatif précis, des comportements acceptables et de ceux à bannir, transmis notamment par les critiques fortes qui sont faites sur l'ensemble des comportements déviants aperçus dans les affaires. Les comportements déviants sont notamment ceux des voleurs, même si les victimes ne sont pas à l'abri aussi de subir parfois la hire médiatique. Donc ce rôle apparaît d'autant plus important dans une période, l'entre-deux-guerres, où nombre des acteurs qui la vivent assimilent cette époque à la plus grave crise de moralité que la France ait jamais eu à subir. Donc ce besoin de redresser les codes moraux nécessite alors un discours entre guillemets chaud, fait de sentiments, de parti pris, d'opinions, à l'inverse du discours tenu par des experts qui opposent lui une vision pleinement objective des faits, déliée des contingences de l'époque et de l'influence des passions humaines. Donc le rapproche que l'on a vu du chroniqueur devant la nouvelle forme prise par le discours journalistique renvoie également à l'idée observée chez Dominique Khalifa pour une autre époque, mais qui me paraît aussi adaptée à ce traitement de la presse locale, d'un basculement, on pourrait dire progressif, des formes de narration classique qui étaient avant centrées sur la description factuelle de l'événement criminel, notamment son horreur, sa sauvagerie, vers un autre type de récit, mode d'énonciation plus complexe, désormais centré sur la production de vérité par le journaliste. Donc la préférence médiatique observée au corps saccagé plutôt qu'au corps autopsié témoigne de la persistance à cette époque d'anciennes formes de discours criminels. Le basculement d'un discours basé sur l'émotion factuelle vers l'analyse sur un plus long terme renvoie également à un autre phénomène qui nuit à l'expression d'un discours expertal dans la presse criminelle de l'époque, celui du rythme propre des discours. En effet, alors que le discours des experts suppose une réflexion, une prise de distance avec l'objet traité, l'actualité criminelle locale est-elle extrêmement conjoncturée, circonstanciée ? Les faits se succèdent jour après jour, sans possibilité d'analyse. Donc bien que la presse mette en scène des experts de la criminalité, hein, des forces de l'ordre jusqu'aux hommes de justice, et parfois même les journalistes, la presse insiste plutôt sur l'aspect, entre guillemets, spectaculaire de leurs activités. Donc les arrestations opérées par les commissaires, les joutes oratoires entre avocats et ministères publics et les mouvements incessants du journaliste au reporter. Les articles à proprement parler de réflexion, tels que celui du chroniqueur de tout à l'heure, sont extrêmement rares dans la presse locale. Les éditoriaux, pardon, ne s'intéressent eux quasi jamais aux questions criminelles. Ainsi, durant l'entre-deux-guerres, l'absence de place et de fait de légitimité du discours expertable laisse ce qu'on pourrait qualifier d'un espace de vérité vide qui doit être comblé par les représentations de l'ensemble des acteurs du délit. Donc le thème du criminel malade offre un bon exemple de la multiplicité des discours qui peuvent ensuite se lire sur une question qui devrait normalement être le précaré des experts médicaux. Donc, deuxième petit point, la critique de l'aliéniste, le corps malade, un enjeu dans les prétoires de l'entre-deux-guerres. Donc dans la typologie des mobiles du vol, la maladie est un thème central. En effet, après l'arrestation, elle demeure invoquée par l'ensemble des acteurs intervenant dans le processus de jugement. Les voleurs, les témoins, dont les victimes, les avocats, le ministère public, le juge, mais également quelques experts disséminés de ci, de là. Donc soustraction, abus de confiance, escroquerie, vol discret avec ruse, avec violence, l'éventail des atteintes aux biens peut être susceptible d'être expliqué médicalement. Donc la mention de la maladie est nettement plus élevée dans le cas d'audiences de cours d'assises, ce qui témoigne de l'importance croissante accordée à ce facteur pour juger les vols dits qualifiés qui remettent davantage en cause les normes et les lois de la communauté. Donc la maladie devient une question aussi de plus en plus complexe car elle semble reprendre en partie, sous une forme si l'on peut qualifier entre guillemets d'expertale, les explications liées aux vices, aux mauvais instincts, construits notamment sur un champ sémantique religieux, qui ont servi séculairement à concentrer le problème de la délinquance sur le corps du voleur et ainsi à ne pas remettre en cause les fondements de l'ordre social. Donc l'entre-deux-guerres voit la pertinence de ces formes anciennes d'ostracisme du voleur être remise en cause par cette médicalisation de son corps qui culpabilise bien sûr toujours la chair mais qui induit des solutions différentes à y apporter. Cette période de transition dévoile les différentes utilisations qui peuvent être faites d'un discours expertal sur le criminel. En effet, le recours à la maladie est utilisé aussi bien par l'accusation que par la défense, à des fins bien sûr radicalement opposées. Donc dans cette partie, il ne s'agit donc pas d'étudier la véracité des explications des aliénistes, hein, j'en ai pas les compétences, mais plutôt davantage à saisir la réception qui ensuite est faite de ce discours dans le prétoire, tout comme dans la presse. Donc les troubles liés à un état maladif sont des éléments courants, comme je l'ai dit, des arguments de défense des voleurs. d'ordre généralement psychique. Ils sont généralement allégués pour expliquer une perturbation de l'équilibre mental au moment de commettre le vol. En invoquant la maladie, le voleur accepte d'intégrer à l'intérieur de son corps les motivations de son geste. Donc l'analyse par les voleurs de leur état de santé mentale reste bien sûr peu précise et très imagée. Agir, je cite, dans un moment de folie, ne pas avoir sa tête, perdre la tête. Donc le voleur localise un petit peu la zone fautive de son corps, sans toutefois pouvoir déterminer les causes profondes de son anomalie. Donc dans les mots des journalistes, le langage devient un petit peu plus soutenu et les premières images aperçues se transforment en impulsions maladives, je cite, ou en moments d'aberration. Toutefois, qu'importe le niveau de langage tenu, ces expressions soulignent le caractère un petit peu d'instantanéité de la confusion. La maladie mentale dans la bouche des voleurs est une manifestation qui apparaît brièvement et qui disparaît tout aussi succinctement, ayant des effets uniquement, bien sûr, dans l'intervalle correspondant au temps du vol. Donc le voleur peut également s'appuyer sur certaines maladies somatiques, hein, rendues responsables également pour un certain temps d'un dérèglement de leur raison. On peut citer les maladies vénériennes, les fièvres, les crises d'épilepsie, autant de phénomènes physiques qui se répercutent sur leur jugement, mais qui, une fois soignés, ne laissent pas de traces. Ainsi, dans l'argumentaire du voleur, la maladie dispose un petit peu du même rôle déculpabilisant que peut l'avoir l'alcool. Elle n'inscrit pas le vol ou la déviance dans la chair sur un temps long, mais provoque seulement un brusque changement de comportement. Je cite, « Le prévenu reconnaît et regrette. C'est dans une heure de folie, dit-il, que j'ai fait ça. Une heure, mais ça a duré des mois, rétorque le procureur devant un homme coupable de multiples détournements. » Donc la tactique des avocats de la défense reprend dans les grandes lignes celle déjà notée chez le voleur. Ainsi, là encore, l'influence sur le mental d'un large éventail de syndromes infectieux est relevée. Je cite, « Maladies diverses, fièvre, palud, tuberculose, épilepsie, rage, sont autant de facteurs qui doivent amener les juges à admettre une déresponsabilisation du voleur. » Cependant, le thème des maladies mentales est ici largement plus développé et théorisé. Ainsi, les manies, syndromes complètement absents du mot des voleurs, sont fréquentes, eux, des plaidoiries. Kleptomanie, monomanie du vol, mégalomanie, l'avocat n'hésite pas à faire entrer pleinement les motivations du voleur dans sa chair. Ainsi, la légitimité de l'avocat semble aussi passer par cette acculturation qu'il possède à ces termes scientifiques et techniques. Donc appuyé sur cette connaissance médicale, la figure du criminel anormal ne semble pas de fait appartenir exclusivement à l'accusation. Ainsi, dans le procès d'un homme coupable d'abus de confiance, je cite son avocat, Maître Brunet de Lagrange, défenseur de Couvrat, essaye d'apitoyer les jurés sur son sort de son client, qui, dit-il, est un malade, un anormal. Ses fugues en sont la preuve. Autre exemple, celui d'un homme coupable de vol avec viol et meurtre, je cite toujours, Maître Grasso va s'efforcer de montrer que dans tous les actes de sa vie, le Groux a agi comme un anormal. Ramassant toute son argumentation en quelques phrases, Maître Grasso dit que tous les actes passés ou récents de le Groux sont un défi au bon sens. Donc si les avocats de la défense acceptent, mais bien plus que cela, défendent les différences de leurs clients d'une population dite normale, c'est que les conséquences de cette révélation sont largement différentes que celles observées autrefois. Donc entre le voleur et l'avocat, le contraste repéré dans la manière de se défendre traduit deux rapports différents face à la maladie. D'un côté, le voleur qui résiste quand même à l'idée de se montrer complètement malade en face de ses juges. De l'autre, son avocat, qui est coutumier de l'économie des peines et des tactiques de défense attendues au palais, et qui pousse jusqu'au bout le rôle supposé des psychiatres sur l'interaction entre maladie psychique et personnalité criminelle dans un but de déresponsabilisation complète du geste du voleur. Je cite encore, Maître Cruard présente une éloquente et habile défense de l'accusé. C'est un inconscient, dit-il. Messieurs les jurés, vous ne pouvez le condamner. Les avocats insistent particulièrement sur les divergences entre mauvais instincts, constitutifs de la figure honnie du criminel né, qui est, elle, davantage développée par les journalistes, et la maladie, qui, elle, autorise une compassion pour le malade qui devient, en fait, une victime. L'accusation a prétendu qu'il avait, dès sa plus tendre enfance, de mauvais instincts. À la vérité, il faut voir surtout là les signes d'un précoce dérangement cérébral, souligne un avocat. Donc le recours à la maladie, contrairement aux instincts, présuppose alors la possibilité d'une médicalisation capable de soigner le voleur, solution opposée à la peine suprême de la mort, tout comme parfois à la prison. Je cite encore le cas de Le Groux. Dès son enfance, Le Groux est la victime de trois impulsions auxquelles il ne peut résister. Impulsion à la fugue, impulsion au vol, impulsion sexuelle. On aurait dû le soigner, on l'a mis dans une colonie pénitentiaire, s'offusque son avocat durant son procès. Donc la prise en compte de la société, du rôle joué par les maladies mentales dans les motivations du voleur, se concrétise au palais par les questions pressantes du juge aux témoins sur l'état mental des accusés. Donc les témoins sont essentiellement appelés par la défense, ce qui conforte aussi la représentation d'une maladie déculpabilisatrice dans l'enceinte des tribunaux d'entre-guerres. Concernant le registre propre des maladies psychiques, le vocabulaire employé par les témoins ne se différencie guère de celui des voleurs. Je cite « Il était un peu fou, il lui parut très drôle ». Afin d'obtenir des compléments un petit peu plus précis, les juges font également appel à des spécialistes, les experts médicaux, assignés à se prononcer sur la personnalité des voleurs, et cela dès leur arrestation. Donc dans la presse, la décision de recourir à un examen mental est rarement justifiée et concerne toutefois davantage les jeunes voleurs que leur aîné. Peu mentionné durant les audiences correctionnelles, l'avis de l'expert est par contre généralement consulté devant la cour d'assises. Donc l'expert dresse un portrait psychologique général du voleur qui doit graduer à terme sa responsabilité dans l'acte commis. Il vérifie également les arguments invoqués par ce dernier. Ainsi, toujours dans le cas de Legroux, l'expertise médicale porta sur l'influence du paludisme dans une possible aliénation mentale. Pour un notaire accusé d'abus de confiance, le médecin évoqua les possibilités de troubles liés, je cite, à une affection cardiaque. Tandis que pour un jeune clerc d'huissier, accusé également d'abus de confiance, le docteur suggéra tout simplement les effets de la croissance sur la mentalité du jeune voleur. Donc le discours médical rapporté par la presse, composé de conceptions neurologiques et psychiatriques, est censé, entre guillemets, déshabiller le voleur pour atteindre sa vraie personnalité. Donc les médecins dévoilent, je cite maintenant, ainsi un cambrioleur pervers, un escroc déséquilibré, un meurtrier grand enfant, un pickpocket atteint d'hystéroépilepsie, un homme coupable de vol avec violence se révèle être un net taré, un escroc souffre quant à lui d'indifférence émotionnelle. Donc à travers tous ces termes, se lie une espèce de paradigme de la folie ordinaire, un bric-à-brac de l'expert, hein, pour reprendre l'expression de Frédéric Chauveau, syncrétisme un petit peu des connaissances médicales et d'un vocabulaire plus populaire, entre guillemets, qui puisse être accessible à tous et notamment aux jurés. Donc l'expertise médicale se conclut également par un discours aussi sur l'anormalité des voleurs. Je cite « Monsieur le docteur Lagrange, médecin aliéniste, a été demandé par la défense. Il estime que l'inculpé doit être anormal. » À l'instar des arguments contenus dans les plaidoiries, l'anormalité ici est généralement formulée aussi pour atténuer la responsabilité des voleurs. Je cite encore deux exemples. Monsieur le docteur Lagrange est d'avis que Hakain n'est pas normal au point de vue mental et que sa responsabilité doit être atténuée. Autre exemple, il a déclaré que l'accusé n'était pas en état de demeurer au temps de l'action, mais que son examen révèle des anomalies de nature à atténuer dans une certaine mesure sa responsabilité. Donc toutefois, le discours des experts médicaux bénéficie d'une crédibilité assez relative, hein, dans l'enceinte du prétoire, suscitant d'ailleurs de houleux débats entre accusation et défense. De plus, les altercations qui opposèrent souvent les médecins entre eux, hein, et ce jusqu'au moment du procès, nuisirent à l'expression d'une parole médicale unique et intelligible, renforçant le caractère fluctuant de cette parole médicale, paradoxalement jugée peu scientifique, supportant ainsi difficilement la comparaison avec les constatations tangibles de l'enquête. Ainsi, dans les palais de justice de l'entre-deux-guerres, plane une méfiance généralisée, hein, sur les dires des experts, qui conclut à des formes d'autocensure de ces experts, empêchant la pleine expression de leur diagnostic. Je cite, il conclut à une responsabilité atténuée, ne tenant compte aujourd'hui que de la tendance de Savatier à mentir continuellement à sa mythomanie. Le président demande, responsabilité légèrement ou fortement atténuée? Le médecin répond, je me garderai de mesurer cette atténuation pour éviter les plaisanteries dont on accable généralement les médecins aliénistes. Je dis responsabilité atténuée, monsieur les jurés apprécieront dans quelle mesure. Donc le champ lexical de l'expert est extrêmement critiqué aussi par le procureur et le procureur et le ministère public. Juste un petit exemple, le jury lui refusera les circonstances atténuantes et ne retiendra pas l'excuse des fièvres paludéennes, argument suprême de la défense. À ce propos, M. Bonin reproche au docteur Lagrange de ne pas échapper à la déformation professionnelle, aliéniste, il voit des aliénés partout. Hilarité générale de la salle, précise le journaliste. Donc cette critique ici, directe, hein, du procureur de la République, se conclut par tout un échange aussi au niveau de la presse, qui critique fortement les experts médicaux, une attitude qu'on peut dire exceptionnelle dans la presse de l'entre-deux-guerres, qui normalement respecte tout ce qui est un petit peu officiel. Donc on peut dire, pour résumer clairement, que la tendance de l'époque à privilégier des solutions coercitives, hein, face au problème de la délinquance empêche dans la presse la pleine expression de ce discours expertal, donc sur le sujet précis des interactions entre maladie et criminalité. Je vais vous citer aussi un article qui s'intitule « La crise de la répression » et qui fut publié dans l'Avenir de la Vienne Il a été rédigé par le préfet honoraire de Poitiers en 1933 et permet de mieux résumer tout ce que je viens de vous dire. Il dit « Tour à tour, on fait de la sobriété une vertu qui atténue, de l'alcoolisme une tare qui excuse. Celui-ci fut soldat à la caserne La Dépravée. Si cet autre avait eu la chance de porter les armes, l'honneur militaire l'aurait sauvé du crime. Et ce n'est pas seulement de la rhétorique, mais surtout de la philosophie qui convient de faire table rase. J'entends par là ces questions de responsabilité, à présent si obsédantes et qui, sous couvert de servir la justice absolue, desservent trop fréquemment la justice tout court. On compulse des généalogies, on scrute les constitutions, on demande au grand-père l'explication du petit-fils, on cherche dans la maladie lointaine la genèse du crime récent, comme si l'humanité tout entière depuis Adam ne portait pas le lourd et implacable fardeau de son infirmité et de son atavisme. Certes, il n'est guère d'actes, exploits ou forfaits, résolutions graves ou décisions infinissantes qui n'aient son origine dans nos sentiments, nos antécédents, nos passions, c'est-à-dire en fin de compte dans notre tempérament et notre caractère. Mais faire entre ces données parfois contradictoires une infaillible discrimination, cela dépasse les possibilités de notre justice. Sceptiques et croyants seront d'accord ici pour reconnaître que le royaume de l'équité pure n'est pas de ce monde. La répression humaine doit assurer la protection de l'ordre social contre l'homme intelligent, certes, mais surtout contre les maniaques, les détraqués, les passionnés, auxquels leur manie, leur détraquement et leur passion servent successivement de mobiles et d'excuses. Dans l'armée du crime, les délinquants à responsabilité limitée forment une troupe d'assaut d'autant plus alerte que le contrepoids de la morale et de la raison ne vient jamais indiquer leur audace. Contre cela, on ne pourra jamais organiser de barrages trop sévères. Donc c'est fini. Juste pour ma conclusion, dire que en fait, on voit la difficulté du regard expertal. Je reprends. Le regard expertal apparaît difficilement dans la presse, tout d'abord à cause, comme je vous l'ai dit, de la logorée trop technique qui ne fait pas assez appel à l'émotion, ce qu'ont besoin encore les lecteurs de la presse de l'entre-deux-guerres. Et au niveau des prétoires, car elle remet en cause le droit de la société à condamner efficacement le voleur. Donc je vous remercie de votre attention.
Bien, merci alors de ce panorama qui nous a sans doute souvent permis de bien nous retrouver dans la Vienne de l'entre-deux-guerres avec l'évocation de quelques noms d'avocats que j'ai pu reconnaître parfois. Et qui montre finalement que l'expert est quelqu'un que comprend très mal le journaliste local, souvent d'ailleurs quelqu'un qui peut être l'objet d'ironies faciles. Et il est évident que, nous en parlions un petit peu avant, s'agissant de ces questions d'experts, il est vrai qu'une affaire très célèbre à propos d'empoisonnement supposé, puisque la personne a été acquittée ensuite, eh bien, a montré aussi combien la presse pouvait se montrer très dure avec des experts qui, il est vrai, avaient peut-être mis du leur dans cette affaire. Ceci étant, nous allons maintenant pouvoir débattre alors de ces deux sujets, c'est vrai, assez malgré tout différents, mais pour lesquels il y a sans doute des regards sur le crime qui sont des regards différents, parce que dans un cas, on se trouve avec des crimes potentiels et des crimes qui, eux, ont pu être jugés lorsque le Conseil de guerre est intervenu, et dans l'autre cas, on se trouve là aussi avec des criminels ou il y a des criminels, puisqu'on évoque la cour d'assises, et qui se trouvent poursuivis et pour lesquels on cherche à faire intervenir. Alors là encore, avec le débat que nous avions, c'est-à-dire l'expert qui l'on voudrait utiliser pour l'accusation ou pour la défense, débat qui poursuit nos discussions de ce matin. Alors, vous avez la parole, bien évidemment.
Bon, j'aurais une question pour Dominique et une remarque, mais je vais essayer de rebondir sur la dernière intervention qui m'a beaucoup intéressé. Pardon. Et il y a un moment donné, vous avez fait une citation dans laquelle j'ai reconnu un extrait texto de la circulaire Chaumier du 22 décembre 1905. Donc c'est ça, vous avez dit anormalité qui justifie dans une certaine mesure une diminution de la peine, et c'est vraiment les termes même de la circulaire. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais pointer, mais il y a aussi j'aurais une question en fait. C'est-à-dire que d'après donc, ce que vous avez pu noter et nous faire partager aujourd'hui, il y a une relative absence du discours des experts parce que on présuppose, ou vous présupposez avec les lecteurs de l'époque, que les experts aboutiraient quasiment fatalement justement à une déclaration d'anormalité ou de qui irait dans le sens d'une atténuation de la peine, ce qui va effectivement à la lecture même du sens de la circulaire Chaumier de 1905. Mais moi, j'ai lu des témoignages un peu postérieurs à cette période d'experts qui disent qu'ils avaient effectivement de temps en temps cette attitude, mais qu'ils en avaient aussi une autre et qui apparemment donc, n'apparaît pas dans vos journaux. Et c'était une question donc, que je voulais vous poser. Est-ce que vous n'êtes pas à l'inverse des remarques qui disent que tel expert a responsabilisé, a normalisé de cette manière la personne pour que ça aboutisse à la peine maximale, alors qu'il était évident qu'elle était anormale? Parce que c'est un mouvement qui est très important dans l'entre-deux-guerres, ça.
Dans la dizaine ou quinzaine d'exemples que j'ai à travers mon corpus, il n'y a aucun mouvement de responsabilisation de la part des experts. Et quand je dis qu'ils sont absents, ils sont absents sans l'aide, puisque pour se moquer d'eux, on les insère. Ils sont absents dans la construction de la figure criminelle qui est faite du journaliste. Le journaliste ne s'appuie pas. Autant il peut s'appuyer sur le discours du procureur, citer le discours du procureur pour construire son article. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'expert va toujours avoir son petit paragraphe particulier et pas du tout dans la mécanique de l'article. Comme on a parlé ce matin d'amuseur public, là, c'est un amuseur public à ses dépens. Il est averti d'anecdotes. Et j'ai l'impression aussi des fois que c'est peut-être pour la justice de l'époque de se donner bonne conscience, de dire on fait appel à un expert médical, pareil pour la presse, mais pas du tout dans la construction du figure. Il y a vraiment une différence entre la façon dont la figure criminelle est construite par les journalistes et la représentation qui en est donnée de l'expert. Voilà pourquoi je parlais d'absence, bien qu'il soit quand même mentionné. C'est plutôt en fait dans la construction de la stigmatisation du criminel, parce qu'il est quand même extrêmement importante dans la presse de l'entre-deux-guerres. On va essayer toujours de séparer le criminel du reste de la société. Dans les discours courants, on va le séparer en lui mettant des tares particulières, des caractéristiques particulières. Mais à partir du moment, finalement, où il est séparé par l'expert, on ne reprend pas du tout, par contre, cet argument. On peut légitimement penser que c'est la médicalisation ensuite induite par cette séparation au niveau de la normale, mais la normale médicale, qui est refusée par la presse, qui pense justement à la sanction. Et un petit extrait d'ailleurs, parce que Le Gros, donc, qui a fait un petit peu tout mon article là, devant la cour d'assises de Poitiers, a été condamné à mort et finalement a été gracié par le président de la République de l'époque, Mirand. Et donc dans la presse, on retrouve justement l'explication de cette grâce qui passait par la normalité, et le journaliste dit: Le Gros est anormal, soit ce compte, tous les criminels sont des anormaux. Alors que dans la presse de l'époque, on essaie justement de différencier. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
Dominique Califa.
Oui, non, juste pour rebondir, parce que j'étais très intéressé par votre affaire. Il se trouve que j'ai, à une certaine époque, je me suis beaucoup intéressé à la façon dont les journalistes pouvaient représenter les experts, notamment. Et alors, bien sûr, tout ce que vous dites sur cette espèce de méfiance de nature plus idéologique qu'autre chose sur la capacité, enfin, la possibilité ou l'opportunité qu'a l'expert effectivement à infléchir le droit de punir de façon créant de la suspicion, bien sûr, on retrouve ça. Mais en même temps, dans les grandes affaires de la Belle Époque, ils sont courtisés d'une façon hallucinante, ces experts, dans l'affaire Vaché, dans l'affaire Vidal, dans l'affaire Humbert, dans toutes les grandes affaires. Il y a une telle euphorie. Alors c'est pour ça, ça change sans doute, mais il y a une telle euphorie de faire parler tous les protagonistes qu'on va poursuivre l'expert. On va absolument essayer de lui faire dire tout ce qu'il n'a pas dit, d'aller encore plus loin. Et moi j'avais été frappé par ça lorsque je m'étais intéressé, avec cependant une caractéristique qui me paraît extrêmement importante, c'est que l'expert n'a jamais droit à l'erreur. Et là, le discours médiatique est d'une extrême brutalité, d'une extrême violence, lorsque effectivement un expert est surpris. Alors c'est le cas évident, c'est l'affaire Jeanne Humbert, hein, où ils disent n'importe quoi et ils n'arrêtent pas de se contredire. Mais j'avais senti quand même à certains moments une sacralisation extraordinaire de cette figure, et dans les enquêtes préliminaires, et surtout dans les comptes rendus judiciaires, où alors ils sont suivis, courtisés, on les interroge. Enfin, de toute façon,
est-ce que ça ne vient pas de la personnalité même des journalistes destinés aux grandes affaires qui avaient peut-être un niveau d'instruction un petit peu plus élevé et qui voulaient acquérir...
Non, je pense pas.
Là, on voit vraiment une sorte de défiance à tout langage technique par
ces journalistes. Oui, mais il se trouve aussi peut-être qu'il y a là une mutation du fait d'idées criminelles sensibles dans la période où vous êtes, où les considérations ou les préoccupations idéologiques ont sans doute pris le pas sur d'autres logiques qui étaient celles, effectivement, de l'investigation tous azimuts, de la spectacularisation tous azimuts qu'on était sans doute dans la période précédente. Mais enfin, ça serait, c'est une hypothèse à vérifier.
Oui, moi j'ai l'impression aussi que, et c'est pour ça que ça pourrait être intéressant, vous vous êtes surtout intéressé au problème des vols, enfin,
uniquement,
et que finalement, vous évoquez le cas de quelqu'un qui est condamné à mort, autrement dit, c'est quelqu'un qui n'a pas commis qu'un vol, mais qui a tué, vraisemblablement.
Qui a tué et violé.
Oui. Et c'est là précisément que l'on commence à s'intéresser à l'expert. Alors je pense qu'il y a deux choses en ce qui concerne votre recherche. Il y a d'abord le type de juridiction devant lequel on se trouve. Quand on est devant la cour d'assises, là on a l'impression que l'expert est beaucoup plus présent que lorsque l'on est devant le tribunal correctionnel. Et puis deuxième chose, c'est le type de crime ou de délit qui est poursuivi. Dès lors qu'il s'agit de délits qui touchent les biens, finalement, ça ne passionne pas. En revanche, quand il s'agit de crimes qui vont avoir l'aspect de crimes de sang, là, ça intéresse beaucoup plus parce qu'on fait les grands titres et vous l'avez un petit peu évoqué, finalement, ce que voudra la presse, lorsqu'il y a déjà les faits eux-mêmes, ce serait quelque chose qui serait très visuel. Une escroquerie, c'est pas tellement visuel, c'est bien évident. Et est-ce que, justement, sur cette question des experts, est-ce que vous avez été amené à vous intéresser, malgré tout, à d'autres formes d'infractions ? Et est-ce que, dans ce cas-là, on ne trouve pas plus présent l'expert ?
Alors, je n'ai pas été amené à travailler sur d'autres formes d'infraction, uniquement le vol. Et j'ai l'impression aussi qu'une grande caractéristique du vol, c'est quand même que c'est un délit d'intérêt. Donc, à partir du moment où il y a un intérêt, il y a peut-être aussi moins besoin de l'expert d'expliquer tout le caractère psychologique du voleur qui est manifesté par le délit en lui-même, qui est de s'approprier quelque chose, qui est donc censément être présent chez tout le monde. Le vol a une explication en lui-même par rapport à d'autres crimes, comme on pourrait dire, des crimes sans motif, comme des meurtres, où là, où il y a quand même plus besoin d'avoir le regard expertal.
Oui.
Oui, moi je voulais juste faire une remarque parce que je travaille sur l'instruction criminelle. Et en 1852, j'avais trouvé dans le Courrier de la Vienne tout un pamphlet qui était écrit par un représentant du ministère public, mais sans préciser véritablement sa fonction, qui justement s'indignait du rôle des experts dans des procès de cour d'assises, et notamment surtout les argumentations qui étaient relatives à la monomanie homicide. Et dans ce pamphlet qui occupait plusieurs colonnes de ce journal, était expliqué que finalement l'expert ne servait uniquement qu'à orienter les propos d'un certain angle et n'était pas donc objectif, tel que son statut et le serment même qu'il avait formulé pouvaient le prétendre. Et c'est donc, je pense, une question qui revient notamment pour ces monomanies et qui existait même à partir de la moitié du XIXe siècle.
Oui, on retrouve finalement la critique de l'expert qui vient atténuer la responsabilité ou écarter même toute responsabilité de la part de celui qui est poursuivi. Autre...
J'avais une remarque qui est à peu près dans la même direction. Moi, je serais hyper prudent avec le discours des journalistes sur ce type d'affaires. Et je me demande s'il ne serait pas... Parce qu'on voit très bien qu'ils suivent, en fait, ils incarnent un rôle de vindicte, puisqu'ils suivent essentiellement la position du parquet. Et je me demande s'il est possible, sur ces quelques affaires, c'est-à-dire de faire le double travail, le contrôle à deux niveaux, c'est-à-dire prendre quelques-unes de ces affaires et essayer de regarder les expertises pour ces affaires. Et voir finalement qu'à la croisée des deux choses, il y a un discours qui est un discours de vindicte. On voit que c'est un journaliste vindicatoire. Donc que les experts, effectivement, sont associés à des positions d'atténuation.
Que ça soit un discours de vindicte, je suis complètement d'accord, puisque même dans certains procès, on a les échos dans la salle des pas perdus des commentaires un petit peu de la population, et la population rigole beaucoup des experts, fait des jeux de mots sur les experts. un traitement qu'on retrouve ensuite directement dans les articles. Donc c'est sûr que en comparaison avec les expertises directement dans les dossiers, ce serait plutôt intéressant. Mais là, sur le fait du regard médiatique, ce qui m'intéresse, donc, c'est ce qui a été fourni un petit peu au lecteur. Ce qui a été fourni au lecteur, c'est une image quand même assez désagréable quand même des experts, et surtout d'un manque de lisibilité du discours, puisqu'on aime beaucoup aussi mettre en scène les oppositions entre les experts jusqu'au procès, qu'on développe. Donc finalement, un manque de lisibilité complète pour le lecteur.
Oui, on peut se demander s'il n'y a pas un petit...
C'est possible de prendre en vue de cas et de regarder les expertises
ou pas ? Ah oui, techniquement, je pense que c'est possible.
Ouais. On peut se demander s'il n'y a pas un petit jeu de la part du journaliste, réussir à montrer que l'expert s'est trompé. Bien.
Oui, est-ce que dans vos procès, là, c'est vrai que les experts, le débat sur les experts est intéressant quand on ne sait pas quelle est la solution. Mais là, dans le voleur, tueur, machin, etc., c'est-à-dire les gens du cru, est-ce que finalement, il n'y a pas d'autres preuves ? Il a été pris sur le fait, il y a suffisamment de témoins, il n'y a eu que lui, et la messe est dite, en sens, et que le recours à l'expert n'intervient que pour essayer de soulager ce pauvre homme. Et c'est pas une expertise pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais une expertise pour essayer de diminuer sa responsabilité. Je dirais une expertise un peu alibi aussi.
Dans la majorité des procès que je vous ai cités ici, on a les aveux, on a les témoins, on a tout. Oui. Pour le cas de Le Grou, il a avoué.
La messe est dite.
Voilà.
Et donc, à ce moment-là...
La grande question, c'est... C'est est-ce qu'on va le condamner à mort ou pas avant le procès. Les journalistes veulent sa condamnation à mort. Et finalement, elle sera obtenue sous les cris de joie de la foule, malgré le discours de l'expert. Et elle sera, comme j'ai dit tout à l'heure, largement critiquée avec la décision du président de la République de gracier, où on reprochera encore le rôle des experts pour cette décision. Alors que finalement, quand il avait été décidé de le condamner à mort, on avait juste... rit un petit peu de bon cœur des experts, mais sans leur reprocher leur rôle. Une fois que la décision... Dans un article, en plus, qui s'appelle « L'exécution manquée », donc on sent bien quand même le poids de la foule qui voulait la tête.
Là, on n'est plus dans l'expertise pour démontrer le fait.
Ah non, pas du tout.
On est dans une expertise de responsabilité. Et à ce moment-là, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais de toute façon, automatiquement, un médecin, il n'enverra pas quelqu'un à chez électrique. Enfin non, à la guillotine, à ce moment-là.
Enfin, le résultat est le même. Oui, moi j'aurais une question en ce qui concerne l'exposé de M. Khalifa. Il y a quand même un cas un petit peu particulier en ce qui concerne les unités de l'armée, c'est la Légion étrangère. Qu'en est-il en ce qui concerne la Légion étrangère ? Puisque dans la Légion étrangère, quand quelqu'un y est admis, on ne veut pas savoir en théorie qu'il a commis tel ou tel crime. Alors, est-ce que les choses se passaient différemment ? Est-ce que vous avez des éléments à ce sujet ?
Il faudrait considérer la Légion étrangère comme un autre corps spécial, par beaucoup d'aspects, par la date de sa création, synchrone celle des bataillons d'Afrique, par l'espace de son déploiement, le monde colonial et l'Afrique du Nord, par certaines des modalités de son recrutement. Dans la mesure où on va trouver beaucoup des délinquants ou des détenus militaires que j'évoquais, qui, à un moment ou à un autre, lorsqu'ils veulent disparaître et qu'ils y parviennent, retrouvent le circuit de la Légion étrangère. Reste que c'est aussi un univers à part, en principe, puisque c'est un corps assez particulier dans ses modalités de recrutement, et que, de fait, je ne l'ai pas intégré à cette approche, parce que il se pense effectivement comme une unité étrangère à l'intérieur de l'armée française. Vous avez raison. Il faut, dans son économie générale, il devrait relever de cet univers. Dans les faits, non, pour des modalités de recrutement, sauf en ce qui concerne les délinquants ou les criminels de la Légion étrangère qui récupèrent. À ce moment-là, via le système des conseils de guerre, le circuit des Biribi. Mais si dans les faits, effectivement, les passerelles et la porosité est évidente entre les deux corps, elle ne peut en aucun cas être acceptée institutionnellement par l'armée française.
Et justement, qu'en est-il de la suspicion que vous évoquiez ? Alors, je ne parle pas seulement de la suspicion simulation, etc., mais de la suspicion que la personne a des tendance criminogène, qu'en est-il dans la Légion étrangère? Est-ce qu'il y a cette suspicion qu'on pourrait peut-être encore plus facilement imaginer?
Ça, c'est une excellente question qui supposerait que d'avoir fait le travail sur la Légion étrangère, que je n'ai pas fait et qu'à ma connaissance, aujourd'hui, il y a deux personnes qui travaillent en ce moment sur la Légion étrangère qui devraient pouvoir nous donner ces renseignements sous peu. C'est une collègue française qui s'appelle Caroline Douki, qui est maître de conférence à Paris 8 et qui est en train d'achever un travail, on ne l'a pas encore lu, et une collègue américaine, Suzanne Kaufman, qui commence un très beau travail sur la Légion étrangère. Dans l'état actuel des choses, l'historiographie de la Légion étrangère est éthique. En France et à l'étranger. Donc, mais voilà, votre question est tout à fait légitime. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre.
Non, mais moi, c'est une communication qui m'intéresse beaucoup.
Oui. Une question pour Dominique encore, parce que moi, c'est assez fascinant ce champ-là que tu as ouvert. Mmh. 800 000 disciplinaires, ça veut dire qu'on peut faire 800 000, il y a 800 000 dossiers quelque part sur ces types.
Ça a été compliqué.
D'une façon ou d'une autre.
Non, il n'y a pas de dossier. La seule façon d'arriver à retrouver. Non, il n'y a pas de dossier personnel. La seule façon d'arriver à retrouver des dossiers personnels, ça serait de repartir soit des registres d'écrou des établissements pénitentiaires qui ont tous été conservés et qui sont disponibles depuis très peu aux archives militaires à Vincennes, au Fort de Lège. J'ai une étudiante qui vient de commencer un travail à partir des registres d'écrou, mais c'est un travail gigantesque. Hein. Soit à partir des registres de contrôle des troupes qui existent pour les bataillons d'infanterie légère d'Afrique pendant la Troisième République, et pas pour les autres unités. Les comptages à la louche, oui. Les comptages que j'ai réalisés, je les ai faits à partir de deux données. Le compte général de la justice militaire qui est publié entre 1832 et 1913 et les évaluations chiffrées qui sont progressivement données dans les inspections ou lors des inspections générales par l'état-major. Une évaluation, une simple évaluation. Mais ça représente un nombre considérable. C'est
énorme. Autre question. Moi, j'en aurais encore une parce que vraiment, ça m'a beaucoup intéressé. Est-ce que vous avez, j'allais dire, une sorte de typologie des médecins que l'on trouve affectés à ces compagnies? D'où viennent-ils? Pourquoi se trouvent-ils ici? Est-ce que c'est sur la base du volontariat ou bien est-ce qu'ils ont été affectés parce qu'ils sont officiers de santé?
Ils ont été affectés parce qu'ils sont officiers de santé. En ce qui concerne les officiers de santé et les médecins-majeurs et même les aides-majeurs, mais c'est vrai de façon plus générale pour l'ensemble du cadre inférieur ou cadre supérieur de l'ensemble des corps disciplinaires, la crise du recrutement est permanente. Entre les deux codes de justice militaire, entre 1857 et 1928, on ne trouve pas. L'institution militaire a beau imaginer des logiques de primes, des logiques d'accélération de carrière, tout ce qu'on a pu, tous les moyens qu'on peut effectivement imaginer pour attirer vers ces corps des officiers qui n'y viennent pas pour des raisons diverses, dont le sentiment d'un sous-emploi, ce qui a des effets dramatiques sur le fonctionnement de ces corps à deux titres. Le premier, c'est qu'il y a un sous-encadrement manifeste et il est beaucoup plus net dans le cas des médecins. Un nombre important de postes ne sont pas pourvus, hein, notamment en Afrique du Nord. Aussi en ce qui concerne la qualité, comme on dira, du recrutement qui est dénoncé par l'ensemble des inspections comme très médiocre compte tenu du peu de candidats. On va même arriver à voir des choses tout à fait extraordinaires au lendemain de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est un moment de très grosse augmentation quantitative pour les raisons qu'on peut imaginer des établissements pénitentiaires et des corps spéciaux en Afrique du Nord, c'est-à-dire l'envoi de volontaires, notamment pour les caporaux, l'envoi de désignaires volontaires, de volontaires désignés, pardon.
Oui, alors finalement, assez paradoxalement, en ce qui concerne les médecins, on a l'impression que ça a aussi un caractère disciplinaire.
D'une certaine manière.
La boucle est bouclée. Autre... Oui.
Oui, enfin, remarque ou question, tu feras comme tu voudras en fonction du temps qui nous reste. Moi, j'ai beaucoup aimé cette intervention parce qu'on a l'impression là qu'on va, grâce à toi, avoir une cartographie d'un continent qu'on soupçonnait mais dans lequel on n'était pas encore allé. Donc, je suis sûr que on va avoir une étude intéressante puis que ça va donner des idées d'autres études. Ce qui m'a frappé, c'est le discours dont tu relèves les deux composantes, simulation et immoralité, qui te semble être une surreprésentation. Évidemment, la question qu'on se pose, et tu as peut-être des éléments, c'est savoir si c'est réel ou pas, c'est-à-dire que si cette surreprésentation correspond à une réalité des faits ou si c'est quasiment un discours auto-engendré. Et je me demande s'il n'y a pas un élément de réponse qu'on pourrait trouver si, dans le discours que tient ce militaire sur la troupe régulière. Est-ce qu'il y aura quelque chose à mettre en regard sur qu'est-ce que c'est qu'un soldat normal ? Ça, c'est la première question que je me posais. La deuxième, c'est pour aller dans ton sens, quand tu nous décris ces médecins, et pour avoir consulté quelques sources relatives aux médecins militaires qui officient dans les bagnes, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la position qu'ils ont, qui est à la fois une position d'une manière humaniste, c'est-à-dire dans la pratique quotidienne. Ils sont très très proches des personnes dont ils s'occupent et ils ont des témoignages. Quand on a la chance de pouvoir consulter des fonds privés, souvent les courriers ont été conservés et on voit combien les détenus ou les bagnards remercient le médecin de telle ou telle mesure de faveur qu'ils ont pris à leur égard, mais en même temps, effectivement, il y a un silence relativement assourdissant. Et la deuxième composante, je crois que c'est leur légalisme très très fort, et qu'on peut mettre en regard avec les médecins criminologues, entre guillemets, qui en métropole sont dans les prisons, donc sont d'une manière du côté de l'ordre, et pourtant n'hésitent pas à tirer souvent un boulet rouge sur l'administration pénitentiaire, sur les conditions de détention, etc. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est peut-être une piste que tu esquisses d'ailleurs, en disant que vers la fin de la période que tu as étudiée, tu fais le lien avec les conseils de révision et les aliénistes. Et je crois qu'il n'est pas impossible que ces médecins militaires aient participé à l'évolution de la clinique, justement, médico-légale. Et pour ça, il faudrait vérifier quels étaient leurs liens avec des médecins civils. Je pense, tu as cité des aliénistes, Régis Pactet. Moi, je pensais, pour avoir travaillé un petit peu sur Porot, que Antoine Porot, par exemple, est quelqu'un qui a fait des expertises pendant la Première Guerre mondiale de soldats maghrébins, et on retrouvait deux composantes que tu donnais pour tes bataillons, c'est-à-dire à la fois grande suspicion et immoralité totale qui arrive à la théorie du primitivisme dans l'entre-deux-guerres. Et tout ça, probablement, mériterait d'être éclairé par tout ce que tu nous donnes à lire et à penser sur les bataillons. Voilà.
Je suis d'accord, bien sûr. Je pense qu'il y a un effet de source évident. J'ai pas pu insister là-dessus. Il y a un effet de source évident entre... sans doute les milliers de rapports d'enquête, d'éléments concrets sur la pratique au quotidien de ces médecins dans les infirmeries, dans les établissements pénitentiaires, dans les détachements. Autant de sources peu disponibles, peu conservées, dont j'ai pu consulter quelques traces, mais peu, et qui nous donnent effectivement des éléments très concrets sur les pratiques médicales au plus près, effectivement, d'un désir d'apaisement, de médicalisation, de soutien de ces médecins. Et en revanche, la trentaine d'ouvrages publiés ou de journaux, ou la plupart du temps dans des collections militaires, avec la bénédiction et l'aval de l'ensemble de la hiérarchie militaire, et qui, de fait, et nécessairement, ont gauchi et infléchi la lecture que l'ensemble que j'ai pu, après d'autres, avoir sur ces questions-là. Et de toute évidence, l'analyse que j'ai proposée est davantage, pour des raisons évidentes, même si j'essaye de rétablir quelque peu, est davantage informée par ces seconds textes que par les premiers. On peut observer exactement le même type de gauchissement dans la médecine du bagne ou... Donc ça, c'est un point avec lequel il faut jouer. Je ne suis pas certain que cette trentaine de médecins qui écrivent aussi de façon aussi prolixe d'ailleurs, et qui développent le discours que j'ai développé, soit représentatif de l'ensemble des pratiques médicales dans ces établissements. Mais cela dit, ils ont contribué à partir de là à nourrir, à alimenter l'ensemble de l'appréciation du phénomène, et on pesait très lourdement sur les représentations et les appréciations de l'institution militaire et, par ailleurs, après, du public. Sur la dernière partie de ta question, oui, sans doute. J'ai pas eu, ça serait à des historiens comme toi de prolonger, effectivement, à partir de ce que j'ai écrit là-dessus, la capacité de ces médecins à fléchir le champ plus général, effectivement, de là. Je pense que oui. Hein, je pense qu'il y a une vraie réflexion d'un petit nombre d'aliénistes sur cette question-là à partir de 1910. Le problème, c'est que la guerre va très vite briser l'ensemble de cette réflexion. Et je ne l'ai pas vu repartir après la guerre, en tout cas dans les publications officielles des sociétés savantes ou des médecins. Mais peut-être dans d'autres domaines que ceux de la médecine militaire.
Oui.
Alors, je crois que vos remarques faisant un lien avec la médecine pénitentiaire, c'est aussi la transition tout à fait idéale avec notre prochaine communication. Mais entre-temps, il y aura une pause. Donc, je vous donne rendez-vous à 16h15. Bien, si vous voulez, on va reprendre. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons eu une allusion à la médecine dans les services pénitentiaires qui a été faite tout à l'heure et qui permettait tout de suite d'introduire la communication de M. Jean-Claude Vimont, qui est maître de conférence d'histoire contemporaine à l'Université de Rouen, puisqu'il va évoquer l'expertise au service des régulations pénitentiaires.
Je vous remercie. Alors, je souhaiterais aborder une période qui semble un petit peu oubliée dans les débats contemporains, qui est cette période qui concerne l'après-Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 1970, ce qu'on appelle souvent la période de la réforme pénitentiaire, qui semble avoir été un moment de grands débats, de grandes expérimentations dans beaucoup de domaines. On connaît bien les expérimentations qui concernent les mineurs avec l'éducation surveillée. On connaît beaucoup moins, du point de vue des travaux des historiens, les expérimentations qui ont pu être menées du côté des adultes, et en particulier le sujet sur lequel je travaille, les multirécidivistes, ceux qu'on appelait les relégués, qui ont existé jusqu'en 1970, relayés ensuite par ceux qui étaient victimes de ce qu'on appelle la tutelle pénale, qui a fonctionné jusqu'en 1981. Dans cette optique-là, dans une phase d'expérimentation, il est évident qu'il faut des cautions. Il faut des cautions scientifiques, et des cautions scientifiques qui ont été justement des experts, des équipes d'experts attachées à l'administration pénitentiaire dans les différents établissements, et qui semblent, sur la longue durée, jusqu'à aujourd'hui, continuer de jouer un rôle, on le verra par des événements récents. Alors, je voudrais faire un petit détour justement par l'actualité avec Marc Renneville. On vit dans une ville, Rouen, qui a défrayé la chronique ces dernières années, puisque des incidents assez graves ont eu lieu dans la prison de Rouen. En particulier, vous le savez peut-être, un détenu a été tué par un autre détenu il y a très peu de temps. L'année dernière, la gastronomie rouennaise a fait un pas, puisque on a inventé le poumon aux petits oignons après le canard au sang, qui est une des spécialités de notre région. Et c'est vrai qu'un détenu a mangé le cœur d'un autre détenu. Et quelques années auparavant, un gardien a été tué. Dans tous les cas, on s'est posé la question de l'attitude des médecins et des experts qui avaient fait se côtoyer dans une même cellule un certain nombre de détenus. En particulier avec des interrogations sur la prévention du choc carcéral, la prévention du suicide, c'est-à-dire des aspects assez légitimes. Mais il est assez intéressant de voir que dans tous ces débats autour de ces incidents qui ont eu lieu dans la prison de Rouen, on n'a pas tellement mis en cause ni l'administration pénitentiaire, ni, à l'exception de l'Observatoire des prisons, ni les personnels pénitentiaires, mais mis en cause les diagnostics qui avaient été effectués par les médecins et les médecins spécialisés de ces établissements. Je crois que c'est un détour qui me paraît important, parce que les questions qui vont être posées là, les questions de ce que j'appellerais de régulation pénitentiaire, posent en même temps des questions qui, elles, sont strictement d'actualité. On l'a déjà évoqué ce matin. C'est justement cette question de rétention de sûreté qui se mettra en place depuis quelques jours à la prison de Fresnes. Et ce matin même, dans Libération, vous avez une pétition de psychiatres et qui a une phrase qui n'est pas inintéressante. Pour la première fois dans notre droit, des individus pourront être enfermés sur décision judiciaire, non pour sanctionner des actes délictueux ou criminels, mais pour anticiper des actes qu'ils n'ont pas commis. En fait, ce n'est pas la première fois. Je crois que ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que déjà, après la Seconde Guerre mondiale, on a effectivement continué de maintenir en détention, parfois pendant 5, 10, 15, 20 ans, des gens au-delà d'une peine, par mesure justement de sûreté, et c'était l'application métropolitaine de la relégation, une sentence indéterminée. Alors je crois que je voudrais prolonger deux des interventions précédentes et me poser deux questions. La première qui serait un plagiat de ce qu'a dit Michel Porret, c'est-à-dire est-ce qu'une culture de l'expertise de la personnalité n'a pas participé à une transition vers une nouvelle politique pénale ? C'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas un développement, tout un ensemble de discours sur l'examen de personnalité qui accompagne, alors lui a dit participe, provoque, la question est posée, provoque une nouvelle politique pénitentiaire dans laquelle nous serions encore depuis 1945 avec des à-coups. Et puis pour prolonger ce que disait Dominique Khalifa, est-ce que ces experts attachés à des établissements ou des institutions, l'armée dans un cas, et là je dirais la pénitentiaire, ces experts, médecins, psychiatres et les équipes qui sont autour d'eux, ne sont pas des régulateurs et parfois même des régulateurs disciplinaires, donc exerçant des fonctions, on a parlé des simulateurs, mais exerçant des fonctions d'étiquetage, d'orientation, d'exclusion, et éventuellement d'allongement des peines, puisque toute la philosophie pénale de cette époque est quand même basée depuis 1885, si je ne me trompe, sur la libération conditionnelle. 85. Sur la libération conditionnelle. Donc je crois qu'il y a quelque chose d'important. Alors je crois qu'il faut rappeler effectivement qu'il y a quelques principes d'une philosophie pénale qui est ce qu'on appelle la défense sociale nouvelle, qui a été théorisée par Marc Ancel, qui induisent par eux-mêmes, par ces principes mêmes, qui induisent l'intervention d'autres personnes que les simples pénitentiaires dans, et le terme qui est utilisé dans beaucoup de textes, dans les traitements des délinquants. Et dans les traitements des délinquants, que ce soit par le biais de peine ou que ce soit par le biais de mesures de sûreté. Il y a un débat très important dans ces années-là sur peine ou mesures de sûreté qui est assez importante. Deux de ces principes me paraissent importants, on vit encore sur ces principes-là. Le principe de l'individualisation de la peine, au-delà de la sentence pénale, elle ne s'effectue pas dans les mêmes établissements, dans les mêmes conditions. Donc qui décide d'individualiser la peine en fonction de la personnalité ? Est-ce qu'on n'aura pas besoin d'éventuels experts pour cette individualisation ? Et d'autre part, la notion très importante dans cette époque de défense sociale, qui est la sentence indéterminée. La sentence plus ou moins déterminée en fonction de la dangerosité supposée de celui qui a été condamné. Et on est en plein dans ce débat-là, puisque le projet actuel est effectivement de maintenir éventuellement en détention des gens estimés dangereux au-delà de 15 ans d'emprisonnement. Cette philosophie pénale s'est dotée d'un certain nombre d'instruments. Et ces instruments, eux aussi, exigent la présence d'équipes d'experts qui ne sont pas les acteurs traditionnels du monde pénitentiaire. D'abord, j'en ai dit un mot ce matin, l'examen médico-psychologique et social de personnalité. C'est au cœur de toutes les procédures qui concernent les mineurs, c'est au cœur de ce qu'on appelle le régime progressif dans les prisons, c'est au cœur de différents centres d'orientation et de triage. Et c'est vrai que l'examen médico-psychologique et social du délinquant va être un petit peu la solution miracle qui permettrait de cerner l'individu et de cerner la personnalité. De la même façon, un autre instrument qui est au cœur de cette nouvelle philosophie pénale, c'est la progressivité. La progressivité, progression entre des établissements, progression vers la semi-liberté, progression vers la libération conditionnelle. Qui décide que quelqu'un progresse d'un stade à un autre ? S'agit-il que des pénitentiaires ou s'agit-il aussi d'autres experts qui interviendraient ? Et puis enfin, c'est vrai qu'un des principes nouveaux de cette philosophie pénale, c'est l'introduction de magistrats à l'intérieur des détentions. Ça sera concrétisé en 1958 par les juges d'application des peines qui vont être, en quelque sorte, les coordonnateurs de ces équipes d'experts, c'est-à-dire auprès de ces magistrats, on va fournir des documents, des synthèses, des expertises qui vont permettre ou la progressivité, ou la mise en semi-liberté, ou la libération conditionnelle. Alors, de quels experts parlons-nous ? On parle d'experts qui seraient, je dirais, plutôt des équipes d'experts. Des équipes d'experts qui seraient des gens qui n'ont pas forcément des formations, et c'est un des problèmes de ces années 50 et 60, des formations très sûres, mais qui n'existaient pas dans l'univers pénitentiaire précédemment. Je vais citer trois catégories. Une première catégorie qui n'a pas le statut d'expert traditionnellement, mais qui, dans ce contexte-là, l'a eu, ce sont les assistantes sociales. Les services sociaux se sont créés dans toutes les prisons et on a demandé aux assistantes sociales d'effectuer des enquêtes de personnalité sur des détenus par un système de correspondance d'assistantes sociales de prison à prison qui essayait de connaître le milieu d'origine des délinquants. Et c'était quelque chose de particulièrement important. À côté de cela, vous avez un autre rouage qui devient un rouage de l'administration pénitentiaire progressivement, mais qui, à cette époque-là, ils apparaissent comme des personnages quasiment extérieurs, ce sont les éducateurs de milieux fermés. Les éducateurs, ce sont ceux qui, devant toutes ces commissions, qui vont trier, exclure, mettre en semi-liberté, en libération conditionnelle ou autre, ce sont ceux qui vont rédiger les synthèses. Ce sont eux qui vont recueillir, d'abord par des dialogues avec les détenus, mais auprès des médecins, auprès des psychiatres, qui vont recueillir toutes les informations et souvent avoir un rôle déterminant. Et puis, évidemment, vous avez aussi des psychotechniciens, ça a été quelque chose d'assez important à cette époque-là, personnages qui évaluent par des tests les aptitudes professionnelles des détenus pour les orienter. Et puis enfin, les médecins des établissements et les experts psychiatres. Et il y a toujours expertise psychiatrique à chaque fois, donc des expertises qui ne sont pas l'expertise qui a eu lieu lors du procès, mais des expertises qui ont lieu pendant la détention dans un certain nombre de lieux que sont des centres d'observation qu'on a au départ appelé centre de tri. Alors c'est vrai que c'est une période qu'on connaît un petit peu par le biais du CNO, le Centre National d'Orientation ou d'Observation de Fresnes, qui a été créé en 1950, mais ce n'est pas le seul lieu. Ont existé d'autres lieux d'observation, et je dirais que les observations, il y en a eu un petit peu partout. En particulier, quatre centres d'observation et de triage pour les multirécidivistes, les centres de Rouen, Lille, Besançon et Saint-Étienne, où des détenus venaient en stage pendant à peu près 6 mois, avec une progressivité, une phase cellulaire, une phase de semi-liberté, une phase éventuelle de libération conditionnelle, où ils étaient évalués, triés, classés, mis en liberté ou envoyés dans certains centres en fonction de leur comportement. Donc, je vais essayer de privilégier les tâches qu'on a assignées à ces équipes d'experts pour montrer en quoi ils ont joué un rôle peut-être moderne au sens de transition vers quelque chose de nouveau, ou bien, comme ce n'est qu'une phase de transition, bah aussi d'aider l'administration pénitentiaire dans ces tâches. Alors, la première tâche qui est assignée à ces experts, je crois que c'est une tâche, qu'on pourrait qualifier effectivement de progrès par rapport à ce qu'était, alors on va encore plagier Michel, l'univers cauchemardesque des prisons héritières du premier 19e siècle et qui s'était prolongé jusque dans les années 45, c'est effectivement une tâche d'étiquetage. D'étiquetage au sein d'un certain nombre de catégories pour effectivement assigner à des détenus à des établissements particuliers. Alors je crois qu'il y a un premier étiquetage qui est le diagnostic médical. Ce diagnostic médical qui a eu pour but de dépister des pathologies. Et je crois que là, c'est un aspect très positif. On a une spécialisation des établissements après la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir traiter au sens là médical, des pathologies physiques et des pathologies mentales et la création progressivement d'un certain nombre d'établissements dans lesquels on va affecter ces malades. Alors, je ne vais pas citer toutes les catégories, mais il y en a une qui est assez connue parce que c'est un des fléaux qu'on commence à résoudre à la fin des années 50, c'est la tuberculose. Et c'est vrai qu'il y a des dépistages de la tuberculose qui s'effectuent au CNO de Fresnes et on envoie les détenus principalement à Liancourt, à Saint-Malo pour certaines tuberculoses, je crois que ce sont les femmes surtout, et à Saint-Martin-de-Ré pour les tuberculoses osseuses. On essaye de dépister, mais là par contre on ne sait pas trop quoi faire, les alcooliques, les ivrognes. Alors pour les récidivistes, les relégués, c'est un problème. Plus de 50% des relégués, des multirécidivistes sont des alcooliques. Mais on commence à mettre en place à la fin des années 50 des cures de désintoxication dans les prisons de Lyon et c'est vrai qu'il y a ce souci de proposer des traitements et d'assurer quelques soins. Et de la même façon, on essaye de dépister des maladies mentales, des troubles de comportement. Alors on va voir justement la différence entre aliénation mentale et troubles de comportement avec de la même façon des stages à l'infirmerie centrale de Fresnes, antichambre bien souvent de transfert dans cette prison asile qui était le château Thierry ou dans la maison centrale d'Aix ou à Haguenau. Donc on a une spécialisation des établissements et je crois que c'est l'un des progrès indéniables de cette arrivée d'experts dans l'univers, je dirais, des prisons après la Seconde Guerre mondiale. Deuxième chose, on a essayé d'effectuer des diagnostics psychologiques, des diagnostics de comportement, pour essayer de ranger les différentes catégories de détenus dans des grandes catégories. Travail essentiel mené au Centre national d'orientation de Fresnes, mais aussi dans les centres de triage de relégués. Alors les grandes catégories, il y en a deux. Et on en a entendu parler ce matin, ça m'a étonné qu'on utilise encore ce mot, mais c'est vrai que dans les centres de triage de relégués, on essayait de distinguer les asociaux des antisociaux. Les asociaux étaient promis à certains types d'établissements, ce qu'on appelait des centres de semi-liberté. Les antisociaux étaient maintenus dans des prisons d'antisociaux. Alors, ce sont des catégories d'une époque donnée, qui paraissent commodes. On en avait créé une troisième au tout début des expérimentations. Les premiers, ça a été à Lille qu'on les a faites. Hein. Ce sont un magistrat important, Vienne, un psychiatre, Vullien. Ce sont des gens quand même assez importants dans l'histoire de la pénitentiaire. Et c'est vrai qu'ils avaient créé aussi une catégorie des récupérables. Mais celle-là, ils n'ont pas trop su quoi en faire. Donc finalement, on n'a gardé que les asociaux et les antisociaux. Les asociaux sont... Alors, pour prendre les multirécidivistes, ce sont plutôt des clochards alcooliques, des vagabonds, des voleurs de poules, expression qu'on utilisait pour les multirécidivistes de ce type-là, de cette époque, qui ont commis des actes peu graves, qui ne mettent pas réellement en cause ou en danger la société. Ce sont les terminologies qu'on utilise à l'époque pour les désigner. À côté de ça, vous avez les antisociaux, qui seraient ceux qui ont mis en cause les fondements de la société, éventuellement qui appartiennent au milieu parisien ou au milieu marseillais, ceux qui, en fait, quand on regarde bien les dossiers, j'en ai étudié à peu près 2000, sont ceux qui ont posé problème à l'administration pénitentiaire, qui se sont révoltés, qui se sont mutinés, qui ont agressé des gardiens, qui n'ont pas joué le jeu du système. Et donc, on va avoir ce travail de classement, ce classement qui est véritablement important, puisqu'y participe à la fois l'assistante sociale, y participe le psychiatre, y participe l'éducateur, le chef de centre, et tout cela est présenté à un magistrat qui, à un moment donné, décide de les classer dans une catégorie ou dans l'autre, et en s'aidant de quoi ? Des théories criminologiques de l'époque. Et des théories criminologiques de l'époque, quand on voit ce qu'est la criminologie en construction, je dirais, après la Seconde Guerre mondiale, on oublie très souvent que toutes les théories qui se sont mises en place à la fin du 19e, elles continuent toutes à fonctionner. On a encore des mentions de criminels nés dans des synthèses. On a encore les théories de la dégénérescence du docteur Morel qui sont présentes. On a encore les théories des pervers constitutionnels qui sont présents. On a encore des choses sur les délinquants ethniques, ça concerne surtout les tziganes, qu'à l'époque on appelle des gitans, parce que le terme n'est pas tellement utilisé, pour essayer d'étiqueter, classer, de faire rentrer dans des catégories préétablies certains comportements, pour arriver à quoi ? À créer des types de détenus. Alors, est-ce un progrès ? Mais il y a ce souci d'une espèce de typologie qui ferait que le comble, c'est qu'à la fin, on dit de quelqu'un, bah, lui, c'est un relégué type. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de donner les caractéristiques, il est tellement typique de ce qu'il est, où c'est un délinquant ethnique. On n'a pas besoin de marquer qu'il est gitan, mais délinquant ethnique, point. Donc là, il y a quelque chose qui est apparu à cette époque-là comme une modernité qui nous pose peut-être problème. En même temps, à cette époque, il y a des diagnostics, je dirais, sociaux et professionnels. Ça peut paraître très simple, mais je crois que ça a été un progrès authentique dans le sens où il y a une évolution du travail carcéral. On va progressivement vers un travail de plus en plus formateur et de moins en moins un travail punitif, et donc on effectue des enquêtes sociales pour essayer, alors de savoir une chose qui peut nous paraître très simple, si on a affaire à des gens qui sont de la campagne ou de la ville, et donc de les affecter à des établissements qui seraient plutôt des établissements pour urbains ou des établissements pour ruraux. Les relégués d'origine rurale ont plutôt été envoyés du côté de Mauzac et du côté de Saint-Sulpice-la-Pointe. Les relégués d'origine urbaine ont plutôt été envoyés à Saint-Martin-de-Ré, on dirait comme ville, c'est un peu particulier, et à Clermont-Ferrand. Là, c'est déjà un petit peu plus logique. Et c'est vrai qu'on a ce souci d'une... Bon, on a formé beaucoup de cimentiers boiseurs pour la reconstruction. Il y a un souci professionnel qui exige avec l'aide des psychotechniciens, des assistantes sociales, d'analyser leur milieu socio-professionnel. En même temps, on prête attention à une nouvelle catégorie que seraient les jeunes détenus. Alors, jeunes détenus, c'est très, très flou. Ça l'était encore il y a quelques années, même dans la prison Bonne Nouvelle de notre métropole. À cette époque, jeunes détenus, c'est jusqu'à 25 ans. Ce sont des majeurs, mais estimés jeunes. C'est une notion qu'on voit apparaître, en particulier avec les jeunes épurés. Les jeunes épurés, des ex-miliciens ou autres qu'on a envoyés au camp du Struthof, qu'on a reconverti à la libération, ou qu'on a envoyés dans des prisons-écoles. Donc, on voit apparaître ces prisons-écoles, d'Hörmingen, d'Ecrouve, et c'est vrai que le critère de l'âge, eux, on peut les sauver, les autres sont irrécupérables, vous voyez le type de pensée, ça a été quelque chose d'assez important. Donc je crois qu'il y a cette première tâche, qui est cette tâche de classement, d'établissement de différentes catégories, et par là même, un travail d'orientation. La deuxième grande tâche qui me paraît importante, ça a été effectivement d'intégrer ou d'exclure de la réforme pénitentiaire. C'est-à-dire que c'est ce que les psychiatres actuels, c'est ce qu'ont dit nos collègues de ce matin, c'est ce qu'ils sont en train de vivre, c'est que le nombre de places est insuffisant, que le nombre d'établissements qu'on appelle les établissements réformés, les établissements de la réforme pénitentiaire sont en nombre insuffisant, et donc il faut faire des tris, il faut faire des sélections de ceux qu'on va... à qui on va faire bénéficier de la réforme. Je dis la réforme parce que c'est vraiment devenu un espèce de terme générique après 1945. C'est la réforme initiée par Paul Amor, avec Pierre Cana, dont on a parlé ce matin, qui est vraiment la cheville ouvrière pour les récidivistes. Et on va sélectionner ceux qui seraient les plus aptes à bénéficier des établissements de réforme. C'est évident qu'il y a des éléments nouveaux là-dedans. On n'a pas envie de mettre des, entre guillemets, des gens irrécupérables. Donc, on sélectionne les meilleurs pour aller dans les établissements. Ce qui fait que, quand on regarde bien le fonctionnement des premières années du CNO, du Centre national d'orientation, dont des collègues disent beaucoup de bien, Christian Carlier, par exemple, parle des fondateurs, vraiment de gens, la psychiatre Badonnel ou des gens comme ça. Bah, quand on regarde ce que font ces médecins du CNO, ce qu'ils cherchent à faire, c'est effectivement de ne retenir pour les établissements réformés que les meilleurs. Je vais citer qu'un exemple. En 1954, le psychiatre Hiver, qui joue un rôle important à cette époque, présente un personnage. Sujet taré, débile, instable, aboulique, déchéance sociale par habitude de boisson, inadapté social, qui ne peut vivre qu'encadré. Donc, le directeur du CNO, pour cet intempérant qu'il qualifie de déchet social, l'envoie dans la centrale de Fontevraud, parce que Fontevraud, il n'y a pas la réforme, c'est Clairvaux, Fontevraud, Poissy, qui sont un peu les dépotoirs par rapport aux centrales réformées. Et donc, dans les dossiers, on a effectivement un certain nombre de catégories qui vont se retrouver exclues de la réforme pénitentiaire, je dirais les alcooliques, certains homosexuels, les anciens des colonies pénitentiaires, les anciens des BADDAF, c'est-à-dire ceux qui ont un passé particulièrement lourd, ceux qui sont venus plusieurs fois au CNO, et donc les récidivistes. C'est-à-dire qu'on a effectivement un mécanisme de sélection auquel se sont prêtés, les experts psychiatres, mais avec la conscience de vouloir faire réussir la réforme. C'est quelque chose d'assez particulier. Troisième fonction de ces experts dans l'univers pénitentiaire d'après 1945, ce sont les régulations disciplinaires. Les régulations disciplinaires parce que, bien souvent, les chefs d'établissement, de condamnés, de relégués, renvoient aux équipes du CNO, renvoient à l'infirmerie de Fresnes tous les détenus qu'ils ne parviennent pas à contenir. Tous les insubordonnés, les révoltés, ceux qui sont mal comportés avec d'autres détenus, qui ont été violents, ceux qu'ils appellent des contestataires, des revendicateurs, des récriminateurs, sont les termes qu'on trouve dans les dossiers, et dont ils souhaitent, en fait, se séparer. Pour une intention qui est une intention, là, je dirais, de vie d'établissement, c'est-à-dire pour préserver la vie d'un établissement, parfois de petits établissements, on se débarrasse. Vers qui? Vers justement ce que disait le collègue de ce matin, vers des établissements psychiatriques, c'est-à-dire qu'on a tendance à psychiatriser les comportements éventuellement de révolte, certains relégués ne comprennent pas qu'ils aient été classés antisociaux, ne comprennent pas qu'ils fassent des années supplémentaires alors que d'autres sont en libération conditionnelle et font tout, cassent les vitres, agressent les gardiens, enfin essayent d'en sortir. Et donc pour préserver le climat des détentions, effectivement la tentation c'est de les envoyer vers des établissements psychiatriques. Et donc là on retrouve le problème de simulation ou pas simulation. Est-ce que c'est véritablement quelqu'un qui a des troubles de comportement? Est-ce que c'est un aliéné? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un révolté? Et dans ce cas-là, bah, les médecins participent des orientations vers quoi? Vers les prisons disciplinaires. C'est-à-dire qu'on a les prisons de Beaune, qui est une prison cellulaire, la prison de Fontenay-le-Comte, qui est aussi une prison cellulaire, entre autres pour ceux qui ont agressé du personnel. Et donc là, on a des commissions de tri et d'orientation qui ont plus pour but, effectivement, de maintenir le calme dans les détentions. Alors, j'ai étudié tous les dossiers de la petite prison de Ghana, qui a en moyenne une trentaine, ça a duré 20 ans, une trentaine d'antisociaux, de relégués antisociaux, en même temps que la prison de Lure en Haute-Saône. Quand on regarde les dossiers, au tout début, quand arrive un relégué à l'intérieur qui a été classé antisocial, les rapports sont souvent assez négatifs. Ils posent des problèmes et autres. Au bout d'un an, on commence à se dire que là, ça dure un petit peu. Puis au bout de deux ans, on voit les rapports s'améliorer de la part du directeur de la prison, de la part du psychiatre et autres, en disant finalement, il serait peut-être bien qu'on l'envoie dans un centre de semi-liberté et tout ça. C'est-à-dire que ce que souhaite la direction du petit établissement, c'est en fait finalement s'en débarrasser. Alors dans certains cas, il y a deux moyens de s'en débarrasser. C'est ou l'hôpital psychiatrique de Moulin-Isère, et là, ceux-là, ils disparaissent du circuit, on les relève même de la relégation, et sont des gens qui ont vraiment des troubles, je dirais, psychiatriques, logiquement, vu ce qu'on a des expertises, ou bien on leur permet la semi-liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains cas, il y a eu un grand psychiatre, un psychiatre qui y a cru à cette réforme, qui s'appelait Pierre Giscard, dans la région de Clermont-Ferrand, qui s'occupait à la fois du centre de semi-liberté de Clermont-Ferrand et de la prison d'antisociaux de Ghana. Et Pierre Giscard a vraiment ce souci de préserver le fonctionnement de ces établissements. Il les suit pour assister à des matchs de foot, il fait des expertises, il fait plein de choses. Entre autres, puis bon, il meurt dans un accident de voiture, il n'a pas beaucoup écrit, ce médecin. Mais on a effectivement cette espèce de participation des experts à ce que j'appellerais une régulation disciplinaire des établissements. Et on s'aperçoit que ils participent de l'architecture de la réforme. Reste une dernière fonction, donc j'ai 3 minutes, ça va aller vite, c'est que ce sont quand même les experts qui en grande partie déterminent la durée de la peine. La durée de la peine, que ce soit dans le système à régime progressif, combien de temps on reste en période cellulaire, combien de temps on reste en période de confiance, d'amélioration. Enfin, il y a épreuve, confiance, amélioration, semi-liberté. Pour un condamné à 15 ans de prison, le passage de phase en phase peut se faire plus ou moins rapidement et obtenir une libération conditionnelle. Pour les relégués, depuis 1942, une loi leur permettait théoriquement de sortir en libération conditionnelle au bout de 3 ans. Par rapport à une peine qui était perpétuelle depuis 1885. Donc il y avait vraiment une possibilité de sortie. Quand on regarde les dossiers, je vous dis, j'en ai regardé à peu près 2000, la moyenne s'établit plutôt autour de 10 ans, et vous avez des relégués qui font plus de 25 ans. C'est-à-dire qui tentent la libération conditionnelle, qui sont réintégrés, etc., etc. C'est-à-dire que là, l'idée du circuit dont parlait Dominique Khalifa, vous avez des personnages qui ne cessent de passer par les centres de semi-liberté, qui connaissent 3 jours de liberté ou même une sortie promenade à un moment donné et qui rechutent. Donc, en fait, ces différentes commissions, ce sont elles qui déterminent l'octroi de la libération conditionnelle. Et cette libération conditionnelle, elle n'a rien d'automatique. Quand vous avez un rapport, par exemple, dans un centre de semi-liberté qui dit « ne peut en aucun cas vivre sans la tutelle de la pénitentiaire, voué à mourir en prison », il est évident que le magistrat qui a ça sous les yeux, c'est l'éducateur qui rédige ça en 1962. Le magistrat, il a du mal à le libérer. Donc, il a des chances de repartir pour un stage à Saint-Martin-de-Ré pour 3 ans et de nouveau un centre de triage et un centre de semi-liberté. Ça peut durer très longtemps et ça dure souvent très longtemps. Donc, se pose une question dès cette époque-là qu'on pose encore aujourd'hui. C'est la question d'une éventuelle dangerosité, c'est-à-dire qu'il y a des critères de dangerosité de ces catégories-là, souvent liés à quoi? Parfois au rapport psychiatrique qui a été fait lors du procès, parfois la nature des crimes, quelques rares, moins de 5% de crimes sexuels parmi ces relégués, puisqu'il y a quelques récidivistes criminels, ils sont très minoritaires, l'appartenance au milieu, ça joue un rôle, les souteneurs ne sont pas très bien vus non plus, et puis surtout ceux qui ont eu un mauvais comportement, qui n'ont pas joué le jeu dans le système. Alors, je crois que on s'aperçoit que les experts jouent un rôle fondamental encore aujourd'hui. Hier soir, il y avait encore une émission à la télévision sur la question du pronostic vital d'un détenu qui a été condamné, qui a été libéré parce qu'il avait un cancer et autres. Bon, c'est vrai que la loi Kouchner remet entre les mains des experts médicaux la possibilité de sortir ou pas de certains grands malades. De la même façon, les condamnés à perpétuité actuels passent depuis 2001 devant des juridictions régionales de libération conditionnelle qui, effectivement, étudient demande des expertises sur l'éventuelle dangerosité des condamnés à perpétuité. On a fait venir un avocat à Rouen dans une journée d'études sur... justement, il avait fait sortir une soixantaine de condamnés à perpétuité depuis 2001. Et effectivement, il nous parlait de la maigreur des dossiers, c'est-à-dire parfois deux rapports d'expertise après 24 ans de prison. Et ce sont ces deux rapports qui décidaient de leur liberté ou pas. On me dit que c'est fini. Donc, je conclue en disant simplement que je crois qu'il y a une contradiction des experts au sein de l'administration pénitentiaire qui, tout en souhaitant, entre guillemets, un traitement adapté, sont aussi sollicités par les pressions et les contradictions d'une administration qui leur demande d'orienter, de réguler et d'aider à faire fonctionner les établissements. Je crois que ça, c'est un point qui me paraît important. Deuxième chose, je crois qu'on est dans une période dont on n'est pas sorti, où on multiplie les expérimentations. Les expérimentations, on expérimente sur des hommes, des bracelets électroniques, des centres de semi-liberté. C'est assez particulier. La pénitentiaire est un univers où on expérimente sur des adultes. Et c'est vrai que qui dit expérimentation demande validation ou demande caution, et automatiquement, on fait appel aux experts. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on a souvent tendance à voir les experts au moment de l'enquête, au moment du procès. On oublie que les experts jouent finalement un rôle très important lors de l'effectuation de la peine, et de plus en plus aujourd'hui avec ce qui se passe avec notre ministre de la Justice. Voilà.
Merci. Alors, je pense que vous allez peut-être avoir l'occasion de développer encore certains aspects de votre communication, aspects sur lesquels je vous ai frustré, à travers les questions qui pourront être posées. Alors, vous avez la parole.
Tu peux passer le micro, je ferai ça. Oui, j'avais deux questions plus précises, mais si bon, ça nous entraîne un petit peu trop loin, bon, ce sera à ce moment-là l'objet peut-être de débats autres, plus lointains. La première question, c'était pour savoir si dans le travail que tu accomplissais actuellement, tu faisais vraiment une distinction entre l'examen médico-psychologique et l'expertise médico-psychologique. Puisque quand on lit un certain nombre de textes de la fin des années 30 ou de l'immédiate après-guerre, on voit que les deux souvent sont distingués à la fois par le nombre d'entretiens que l'expert ou le responsable peut avoir avec le détenu, le type de questions posées, la durée de l'entretien. Bon, ça, c'était la première question. Et puis la deuxième, et là j'ai pas de réponse, parce que c'est une période que je connais pas très bien, c'est la période d'immédiate après, qui précède immédiatement la Seconde Guerre mondiale, quand se met en place justement ces examens ou cette expertise médico-psychologique. Est-ce que tu as été regarder un petit peu les étapes de cette généalogie, de cette archéologie, comment ça se met plus concrètement en place?
Alors, pour répondre rapidement, je crois que les expertises, l'examen médico-psychologique et social, c'est le résultat des regards de différentes catégories, c'est-à-dire l'éducateur, l'assistante sociale, et c'est l'ensemble qui constitue l'examen médico-psychologique et social qui aboutit à une synthèse. Le psychiatre n'a qu'un entretien la plupart du temps avec ses détenus. sans type de question précise, j'en ai pas trouvé trace du tout, alors que Pierre Cana a donné des modèles d'enquête, a donné des modèles sur la manière de constituer l'ensemble de l'examen médico-psychologique, mais il y a une rubrique à un moment donné qui est l'expertise psychiatrique, et il n'y a aucune consigne de données, et je dirais que les psychiatres, selon leur personnalité, j'ai pu voir ceux de Lille, Besançon, les différents endroits, ils parlent de tout, ils ne parlent pas forcément de psychiatrie d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est quand même très approximatif, hein, très approximatif. Justement, les questions, est-ce qu'on voit apparaître la psychanalyse ou pas, ou d'autres, c'est pas du tout évident, c'est quand même très, très sommaire, hein, comme type d'expertise. Je pense que un des problèmes de ces dossiers, c'est qu'on a un phénomène d'accumulation, c'est-à-dire que ces dossiers suivent les détenus et deviennent d'authentiques casiers pénitentiaires qui les suivent d'établissement en établissement. Et chaque expert recopie l'expert précédent. Et souvent, la première expertise qui a été faite lors du procès va continuer à marquer tous les autres experts, quel que soit le comportement du détenu. On a un relégué qui avait sodomisé un chien. Je veux dire, tous les experts ont tous parlé de ça. C'est vraiment, ça les a marqués. Enfin bon, donc on a effectivement cet aspect-là. Je pense qu'avant-guerre, ce qui semble avoir influencé beaucoup, c'est le travail qui a été mené par les Belges, les laboratoires d'anthropologie criminelle. Et j'ai l'impression que c'est ce modèle belge qui arrive d'abord à Fresnes du côté des mineurs, les premières expérimentations, les premiers lieux d'observation qui a un peu étudié Élise Ivorel, hein, sur l'expérimentation menée en direction des mineurs. Et puis, on commence aussi à reparler du modèle progressif dès 1938, ce système bon, passant de périodes dures vers la semi-liberté. Mais je ne pense pas qu'on ait avant-guerre, enfin moi je ne le vois pas, si on veut, du fait que les multirécidivistes, par exemple, n'étaient pas là. On a en 1945 une situation toute nouvelle qui est ce fait que ceux qui partent en Guyane, ils sont désormais en France, que ceux qui partent aux travaux forcés, ils sont désormais en France. Et en plus, on a les épurés sur les bras. Donc 60 000 personnes quand même en 1946 dans les prisons. Ça pose problème. Hein, mais c'est ce que je peux dire. C'est-à-dire la genèse de tout cela. C'est vrai que pendant la guerre, plusieurs thèses ont été écrites qui pose cette question de la récidive, et entre autres celui qui va être la cheville ouvrière de cela dans la réforme pénitentiaire. Pierre Cana a écrit une thèse en 1942 qui s'appelle « Nos frères les récidivistes ». Bon, ce qu'il y a, c'est quand on voit la différence entre ce qui s'est fait réellement sur le terrain et la philosophie chrétienne des initiateurs de la réforme, il y a décalage.
J'ai dû pas écouter une demi-seconde, mais le dossier de ces voués à mourir en prison, ce qui serait un titre merveilleux pour un livre, c'est hors pénal, en fait. Ils sont au-delà de la peine.
C'est tout. Là, c'est le débat énorme des partisans de la défense sociale nouvelle. La France estime qu'elle a une peine complémentaire à une peine pénale, qui est la peine de la relégation. Donc, au-delà d'un certain nombre de condamnations, automatiquement, jusqu'en 1954, il y a la peine de la relégation qui s'applique. Donc, certains théoriciens vont dire « La France a une mesure de sûreté ». Mais cette mesure de sûreté, c'est quand même une peine, parce qu'elle est dans le code pénal. Donc, tout un débat qui, à mon avis, aujourd'hui, a plus grand intérêt pour nous sur peine ou mesure de sûreté, je crois que ça pose question. Mais, par exemple, celui qui se trouve dans ce centre de semi-liberté en 1963, 62 ou 64, c'est quelqu'un qui a donc effectué ses peines de prison. Ça doit être un petit voleur. Il a fait sa peine de 4 mois de prison, par exemple. Il a fait 3 ans d'épreuve à Saint-Martin-de-Ré. Il est allé en centre de triage. On l'a envoyé ensuite à Clermont-Ferrand en semi-liberté. Et là, avant de le mettre en semi-liberté, il passe de nouveau devant une commission. Et c'est là que l'éducateur dit « Non, celui-là, il est voué à mourir en prison ». Alors souvent, le magistrat ne le suit pas parce que c'est un éducateur qui était particulièrement dur. Et il part en liberté. S'il se tient mal, il réintègre, il part 2 ans en centrale à Nîmes ou ailleurs, et puis il repart à Saint-Martin-de-Ré. Mais il est quand même... La France a mis en place un système complètement parallèle à l'univers carcéral. À certains moments, on a mis des détenus à Fontevraud, à Nîmes ou dans différentes prisons, mais on a un système parallèle avec Mauzac, Ré, Saint-Sulpice, La Pointe, enfin tous ces endroits-là qui ne sont plus des établissements de la pénitentiaire, qui sont gérés par la pénitentiaire, pardon, mais qui ne sont pas pour les détenus ordinaires. même si ce n'est pas totalement étanche. Hein. Mais donc, ils sont quand même dans un système pénal. Mais certains pensent que c'est aussi des mesures de sûreté, au sens où le souhaiteraient les Belges. Il y a un code pénal suisse qui prévoit des mesures de sûreté. Parce que, bon, ce que j'ai oublié de dire, c'est... Enfin, ce que je veux dire par là, je suis étonné que depuis qu'il y a les projets et la loi de notre ministre de la Justice, la seule référence à laquelle on ait fait mention, c'est un discours de Badinter disant c'est une honte, on revient à la défense sociale pratiquée par les nazis, quasiment. C'est-à-dire, c'est l'internement des asociaux dans les camps de concentration avec des triangles noirs. Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est ça la première défense sociale, c'est l'élimination. Et que personne n'ait fait référence du tout à la période 1945 jusqu'à 1970, où effectivement on a vraiment réfléchi à cette question. Le modèle suisse, le modèle belge, les codes pénaux, tous les pays, ils sont étudiés par Pierre Cana, la revue pénitentiaire, la revue de sciences criminelles et droit pénal comparé, enfin toutes les grandes revues ne cessent de parler de tous ces modèles européens parce que on pense avoir trouvé... Le code de procédure pénale de 58, il exige l'examen médico-psychologique dans tout dossier d'assises. Automatiquement une expertise. Donc pour eux, c'est l'expertise avant jugement. C'est le grand progrès à leurs yeux. Hein, donc l'expertise après jugement qui permettrait bah, non plus d'adapter... C'est pour ça qu'en France... Alors je dirais, c'est ça qui me paraît intéressant par rapport à ce qui se passe avec Rachida Dati, c'est que la France, à mon avis, a toujours le droit classique hérité de Beccaria a toujours résisté à ces dérives de la défense sociale. Et donc, ils se sont trouvés à certains moments, même les plus généreux, on va dire les Paul Amor, Pierre Cana ou autres, quand on leur disait « mais peu importe le crime, ce qui compte, c'est de savoir si c'est un antisocial ou un asocial, et donc c'est sa personnalité qui compte, et lui, éventuellement, on va l'éliminer ». Il y a des moments, ils parlent de lobotomie préfrontale, hein, pour certains, même les plus généreux d'entre eux. Donc, c'est vrai que je crois que le droit classique a finalement été un blocage, et c'est très possible que là, les difficultés que rencontrera le ministre, ça ne sera peut-être pas par la Ligue des droits de l'homme ou des associations comme ça, mais peut-être par des juristes très classiques qui vont dire « Attention, c'est notre code pénal que vous mettez en cause. » Parce que en fait, quand on dit plus de 15 ans de prison, ça peut s'appliquer à énormément de gens, la loi là qui est appliquée. Et 15 ans, ça peut être des saboteurs de train même. Hein.
Juste pour rebondir sur ta dernière remarque, il y a un projet de réformer à la fois le code de procédure pénale et le code pénal. Donc ça risque de se mettre en place l'année prochaine et on risque de normaliser justement toutes ces mesures qui pour l'instant paraissent hérétiques à un certain nombre de personnes qui résistent. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, plutôt sur le point de vue d'un droit classique que du point de vue de ces personnes de la défense sociale qui avaient déjà expérimenté quelque part tout ce que tu nous as très bien présenté. Moi j'avais deux questions. La première c'est sur ce que tu nous disais justement sur les expertises psychiatriques qui manifestement sont faites un petit peu sans cadre quelque part. Est-ce que tu désignes donc expertise psychiatrique plus examen médico-psychologique et social qui est fait par les assistants sociaux et les éducateurs qui forment une sorte de ce que tu appelles un casier pénitentiaire, ce qui est très intéressant. Les expertises dont tu parles, donc ça concerne essentiellement les relégués, donc après 1945, et ce sont des expertises qui sont faites dans le cadre des demandes de libération conditionnelle, c'est ça ?
Oui. C'est-à-dire que tout relégué à l'issue de sa période d'épreuve à Saint-Martin-de-Ré ou à Mozac peut obtenir éventuellement une libération conditionnelle directe. Mais très vite, enfin, tous ceux qui avaient subi la relégation pendant la Seconde Guerre mondiale, cela, on leur a permis d'avoir des libérations conditionnelles directes, puis ils sont revenus pour certains d'entre eux. Après, on a préféré les envoyer dans les centres de triage, où là, on évalue leur personnalité, on décide de les classer antisociaux, asociaux, et en fonction de leur comportement, on les met en liberté, ou on les envoie dans des prisons d'antisociaux, ou dans des centres d'asociaux. Donc là, c'est une expertise qui a lieu à un moment d'évaluation, après une épreuve de 3 ans. De la même façon, ce psychiatre Pierre Giscard, lui, il intervenait encore en aval, il intervenait dans une prison d'antisociaux et dans le centre de semi-liberté de Clermont-Ferrand. Et lui aussi, il avait pour tâche, par ses expertises, de dire si on pouvait les mettre en libération conditionnelle. Et il y a un autre lieu, mais là, ça ne concerne pas que les relégués, c'est tous les condamnés, c'est encore jusqu'à aujourd'hui, le CNO de Fresnes, où pour les... Alors, à l'époque, au début du CNO, c'est pour tous les condamnés à plus... dont le reliquat de peine est supérieur à 2 ans, qu'on les fait passer par ce stage cellulaire ou autre. Donc il y a différents moments de ces expertises.
D'accord, parce que les expertises qui sont demandées par les juges d'instruction ou etc. sont en revanche très, très normées. Et donc, moi, pour avoir consulté plus de 200 expertises de Dubino notamment, c'est toujours la même chose, c'est toujours partitionné en quatre parties. Et c'est pour une manière de répondre aussi à la question que posait Frédéric Chauveau. Je pense que ça dépend vraiment des types d'expertises. Là, manifestement, on est en train d'inventer quelque chose sur lequel il y a ouais. du flou. Et je suis tout à fait d'accord avec toi aussi pour dire que la filiation un peu oubliée, c'est quand même la défense sociale belge. Et que les premières infirmeries psychiatriques en France, tu as cité Vullien à Lille, etc., c'est dans l'entre-deux-guerres. Dans l'entre-deux-guerres, on avait déjà un projet de réforme du code pénal en France, avec des mesures de sûreté, articles 66 et 67, où il y avait la question du soin, justement, sur laquelle, entre parenthèses, on ne se posait absolument pas la question du consentement du détenu, parce qu'il était évident qu'il allait se faire soigner, et qu'il le veuille ou non, alors que c'est devenu une problématique majeure maintenant pour nos collègues soignants. Et puis, lorsque les infirmeries renaissent après la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment dans cette lignée. Et juste pour vous mentionner aussi, il y avait un projet de loi sur les anormaux qui était porté par Cana, Amor, etc. Et moi, je ne sais pas ce qui est devenu ce projet de loi, mais il y a eu une réflexion très active dans les années 50 sur cette loi sur les anormaux qui portait aussi des lois de sûreté dans le sens de la défense sociale nouvelle.
Oui, parce que oui, c'est vrai que quand on regarde les premiers numéros des deux revues dont on a parlé, il y a même eu des enquêtes systématiques menées dans des maisons d'arrêt pour justement cette... Parce que je pense que les premières applications de la défense sociale, excepté l'élimination dans des camps ou à la façon italienne ou allemande, ça a été en direction de ces deux catégories qui étaient les délinquants anormaux mentaux, c'est le terme qui était utilisé, et les récidivistes. Et je pense que, bon, il y a d'autres modèles qu'on cite jamais, mais il y a l'île de, je ne sais plus quelle île, mais l'Angleterre a un système de quasiment de relégués également du début du siècle, qui est toujours cité en exemple. Et puis, Pierre Cana, lui, il va s'inspirer aussi des prisons américaines. La sentence indéterminée, c'est quelque chose, il a fait un voyage aux États-Unis, il est allé au Portugal, il y a tous ces aspects-là. Alors, c'est vrai que les délinquants anormaux mentaux, ça semble avoir été une des justifications pour créer... Et je crois que c'était les débuts des débats, des établissements de défense sociale. Et parfois, on voit des psychiatres comme Vullien dire « celui-là, il relèverait d'un établissement de défense sociale ». Souvent, c'est plutôt à propos de clochards alcooliques, dont on dit, je mets des guillemets hein, de l'époque, « il est très débile, QI, enfant de 9 ans ». Et ça, on en trouve quand même assez souvent. On a l'impression de pas mal de et pour cela, ils pensent à des espèces d'établissements qui seraient sur le modèle belge, à moitié médicaux, mais qui ne se sont pas mis en place. Le seul, c'est plus ou moins Château-Thierry qui est... moi, les relégués qui passent à Château-Thierry, ça donne plutôt l'impression qu'ils passent dans un stage et qu'on essaie de les évaluer encore une fois pour savoir si on peut les réintégrer par un biais ou par un autre dans le système ou bien les envoyer en asile et les relever de la relégation.
Oui. Oui, j'ai l'impression que les experts dont vous parlez, maintenant, ce n'est plus l'expert médecin, c'est l'expert psychiatre. Hein. Et je pense que dans l'univers de la psychiatrie, jusque dans les années 50, il n'y a la guérison, c'est l'enfermement. Exactement, non. Il n'y a que deux solutions. Soit il est guéri, il peut sortir. Soit il n'est pas guéri et on ne peut que le garder à vie. Il n'y a pas de sortie à ce moment-là. Le traitement de la psychiatrie, c'est l'enfermement dans l'asile psychiatrique. Et ce n'est que dans les années 50 et 50, enfin 52-53, avec la Borie notamment, que va surgir la notion de... On va pouvoir les traiter comme des patients normaux, comme une maladie normale, à l'extérieur. Et à ce moment-là, intervient vraisemblablement dans leur tête une autre façon de faire, une autre façon de penser. On n'est plus dans le... comment dirais-je, ce que vous avez dit là sur le doit rester toute sa vie. Vous avez des patients dans les hôpitaux, ce qu'on appelait les débiles profonds, c'est-à-dire QI inférieur à 50, au moins à 60, qui étaient là. C'était aussi une autre, entre guillemets, relégation à perpétuité. Ils n'avaient jamais commis de délit, mais on les avait placés d'emblée là. Donc je crois que c'est important, ces deux psychiatries, finalement.
Je crois qu'effectivement, selon les centres, je sens des nuances entre différents psychiatres. Quand je parlais du docteur Pierre Giscard, on a réellement l'impression de quelqu'un qui veut accompagner vers un milieu ouvert de semi-liberté, de quelque chose d'autre qui serait lié à... Enfin, ça fait beaucoup plus penser à un accompagnement en dehors des centres et autres, mais d'autres psychiatres sont beaucoup plus sommaires. C'est pour ça que je disais, c'est beaucoup plus court que les expertises qu'on trouve même dans un tribunal. Et là, c'est effectivement plutôt la solution asile ou pas asile, ou hospice pour les plus vieux. Parce que ce qui est dramatique dans l'histoire des relégués, c'est qu'on a eu énormément d'écrits. Et à la fin, quand on lit les spécialistes comme Pierre Cana, qui a dû consacrer des pages et des pages, la solution, c'était de dire, celui-là, de toute façon, s'il trouve une femme qu'il tiendra bien, au moins, ça sera la solution. C'est un peu désespérant quand on lit ça comme solution après des milliers de pages sur la réforme pénitentiaire.
Je crois que le monde a changé dans les années 60, parce que dans les comptes rendus de la commission administrative de l'hôpital de ces années-là, on a à la fin, sont punis pour être rentrés en état d'ivresse, sont punis de sortie pendant 15 jours, un mois ou un truc comme ça, les dénommés un tel et un tel. C'est-à-dire les gens des maisons de retraite sont effectivement, ils ont le droit un petit peu de sortir le dimanche, mais s'ils ne sont pas conformes à l'ordre établi, notamment quand ils rentrent, soit en faisant du bruit, soit en s'en prenant au personnel, etc., ils ont une punition de type carcéral. Et l'hôpital et la prison ont des vieilles accointances, hein.
Mais ce qui est fascinant quand on a entendu ce que tu as présenté et puis qu'on ajoute à tout ce qu'on entend sur les prisons, en gros, depuis que la prison existe en France, c'est qu'il n'y a jamais eu encore l'archipel du goulag en France sur la situation carcérale dans ce pays. Moi, ce que j'entends là sur ces masses de types qui sont en état de non-identité pénale, c'est très impressionnant, quantitativement.
Oui, ils sont comme... Enfin, justement, à partir du début des années 60, on a pris une loi, la loi 1954, qui permet, c'est Jacques Izorni qui est à l'origine de ça, que les magistrats ne prononcent plus automatiquement la relégation. Donc là, on a eu tout de suite une décroissance, parce que c'est vrai que partir à perpétuité dans ces établissements qui étaient considérés comme des pourrissoirs, hein, ce sont les expressions qu'utilisent eux-mêmes les relégués. Et donc là, on a une diminution de l'effectif des relégués, mais on a un espèce de volant de 600-700 gars qui n'arrivent pas à en sortir. Comme le disait Dominique Khalifa, vieillit prématurément. C'est une des caractéristiques, on trouve ça dans énormément de dossiers. Je suis allé voir le cimetière d'un centre de l'armée du salut de Ratpont où allaient des relégués une époque. C'est vrai qu'ils meurent jeunes. C'est-à-dire que 50 ans, c'est un vieillard. C'est assez particulier. Donc, dans les textes de relégués eux-mêmes, on va trouver des termes comme je suis pourri, on est pourri, la notion de déchéance, il y a une espèce d'auto-dévalorisation d'avoir passé des années et des années avec cette expression qu'on trouve dans les dossiers, marquée par l'empreinte pénitentiaire. Sa seconde famille, c'est la prison. On a quelques cas de relégués qui, du centre de triage de Rouen, ont une sortie promenade, s'assoient devant la sortie de la prison et attendent 5 heures du soir pour rentrer. Ils vont pas. Ils ne franchissent pas la Seine pour aller dans le centre-ville de Rouen. Donc, je pense que le système, ce qu'on disait, la moindre sanction, celui qui allait boire un coup, qui avait dépensé trop d'argent lors d'une sortie de promenade et tout ça, qui allait fréquenter les mauvais cafés, qui allait voir les prostituées, tout ça, ils étaient réintégrés, ils repartaient pour 3 ans. Donc, en plus, ce sont tous des interdits de séjour, donc ils sont coupés de leur famille. Leur famille, on l'a vu à l'écologue avec Frédéric, leur famille, ils n'en veulent plus. Ils ont honte. Parce qu'être relégué, c'est vraiment une honte, même si ce ne sont que des voleurs de poules. Donc le nombre de familles qui disent, ce que j'ai expliqué dans les colloques, c'est quasiment impossible de faire de l'histoire orale avec des relégués. Moi, je suis descendu jusqu'à Marseille pour en voir un. Au dernier moment, sa famille a dit non, on ne veut pas que vous le rencontriez. Parce que c'est comme si ça avait été l'infamie. Oui. Mais être un club de première division qui descend en deuxième division, c'est une infamie aussi. Non, mais le mot relégation, il est lourd en France, hein. C'est seulement quand on tape sur Google, c'est ou quartier relégué, les quartiers défavorisés, ou les clubs qui descendent d'une division. Ça a toujours été connoté.
Oui, mais à Poitiers, on peut descendre encore plus bas pour le foot. Mais enfin, c'est un autre problème.
À vous entendre, on a l'impression vraiment que les experts ont le dernier mot. En ce qui concerne la détermination de la durée de la peine et de son mode d'exécution, et dans quelle mesure est-ce que vous pouvez constater que les que les magistrats ou que l'administration pénitentiaire s'écartent ou pas des avis donnés par l'expert? Est-ce que c'est vraiment eux qui font la décision? Est-ce que les magistrats ou l'administration pénitentiaire ont prennent une marge de manœuvre, une liberté, ou prennent la responsabilité de s'écarter de l'avis des experts alors qu'eux-mêmes ne sont pas?
Là, c'est le problème de décompte statistique. Ça veut dire que moi, j'ai des cas, effectivement, où cet éducateur de Clermont-Ferrand n'est pas suivi par le magistrat, ou même qui écrit des rapports 5 ans après la sortie de quelqu'un en disant « Oh, on n'aurait pas dû le libérer » ou « La société prend un grand risque à le libérer ». On sent qu'il y a une divergence entre le magistrat et cet éducateur qui semble ne plus avoir de médecin psychiatre à ses côtés. C'est lui qui fait un peu la pluie et le beau temps dans cet établissement. Mais de là à dire, moi j'ai l'impression que ce sont quand même des travaux d'équipe, que le magistrat il vient périodiquement, on étudie les cas, ça va assez vite, et c'est finalement quand même la synthèse de l'éducateur qui, alors il va peut-être y avoir, sur 100 cas, on va avoir une différence entre est-ce que c'est un asocial ou un antisocial, entre un établissement d'antisociaux qui va dire celui-là, c'est peut-être parce qu'il a fait une bêtise en semi-liberté qu'on l'a classé antisocial, mais ce n'est pas un vrai antisocial. C'est très minoritaire. Ça donne l'impression qu'il y a une espèce de consensus. Je n'ai pas vu, justement, on en avait parlé avec Ludivine Bantigny, avec différents collègues, est-ce qu'on a des batailles de discours dans les dossiers? Est-ce que vraiment il y a des différences entre le discours de l'assistante sociale, le discours de l'éducateur et autres? Je dirais qu'on a beaucoup plus à faire à des gens qui accumulent des données et plus ils ont... c'est assez flagrant. Je me suis posé la question, par exemple, sur la manière dont on nommait les tziganes. J'ai dû repérer une 60aine. Dans un même dossier, quelqu'un va être... On va parler de lui en tant que yéniche, romanichel, forain, tzigane, gitan... pas tzigane, gitan ou autre. Et c'est vrai que les yéniches par rapport aux tziganes sont deux populations complètement différentes, les vanniers et autres. Et on s'aperçoit de grandes confusions. On reprend les mêmes termes d'un discours à un autre. Donc là, de dire... le juriste ou le psychiatre va être plus au fait et va mieux identifier une catégorie particulière, et puis l'assistante sociale a fait des confusions. Non, je crois pas. Tout le monde se...
Oui, dernière question peut-être.
Je pense qu'il y a aussi un gros problème de responsabilité, parce que les gens ont été condamnés, donc il y a une sanction. Leur donner le quitus pour sortir, c'est ce principe de précaution. Enfin, c'est un certain nombre de choses qui nous tombent dans la tête actuellement. Et revenir, c'est donc revenir, même si on en a le droit, entre guillemets, c'est revenir sur une décision qui est déjà prise. Donc, à mon avis, dans le raisonnement, si vous voulez, à la fois humain et puis médical ou pseudo-médical, c'est effectivement la notion, elle est vraisemblablement d'équipe. Oui. Mais là-dedans, il y a peut-être une personnalité forte. Mais quel est l'expert, quelle est la personnalité forte, je ne sais pas. Ça peut être effectivement le problème social de l'assistante sociale, ça peut être, puisque les problèmes sociaux qui étaient à la cause ou qu'on a estimé être à la cause au départ ont disparu, ça peut être le problème psychiatrique, si effectivement il est malade, pas malade, le problème de l'éducateur, il a maintenant un métier, il n'en avait pas, et puis le problème de la justice, cette faute, je ne sais pas moi. Mais ça me semble plus effectivement être une décision qui essaye d'être collégiale parce que c'est trop lourd d'avoir la responsabilité tout seul. Oui. Enfin, je vois mal ça.
Je crois que vous avez tout à fait raison dans le sens où ce sont quand même des réformateurs qui sont obligés de jouer sur de la prudence. Ils ont tenté des libérations, des semi-libertés sur l'île de Saint-Martin-de-Ré. Ça s'est très très mal passé. Toute la population de l'île a protesté contre ces relégués. Ces relégués qu'on envoyait quand même en Guyane, donc le fait qu'ils soient en France, de les remettre en liberté. Dès qu'il y avait un incident, bon, j'ai étudié le centre de Radepont, qui est un centre de l'armée du salut, dans l'Eure, où près de 1000 relégués ont été envoyés quand on ne savait plus quoi en faire. Bon, c'est vrai qu'à 200 mètres du centre de Radepont, il y avait un bistrot. Donc, tous les villages autour ont eu des problèmes. Alors là, la presse se déchaîne. Il y a eu quelques meurtres commis par des relégués, mais il n'y a pas eu de grande affaire scandaleuse, si on veut, dans les années 40, 50, 60, 70, mettant en scène des relégués. Mais c'est vrai que la prison, la population n'est pas prête à aller très très loin dans les concessions, et donc parfois les textes de Pierre Cana ou d'autres sont particulièrement sévères et prônent pour certains d'entre eux, de ces relégués, l'élimination, c'est vrai. Et on envisage même parfois de recréer quelque chose ou en Guyane ou ailleurs. Au tout début, 47-48, on en reparle. Donc il y a quand même une catégorie qui leur semble des irréductibles et pour lesquelles, entre guillemets, ils ne voient pas le traitement. si ce n'est la prison d'antisociaux. Mais là, c'est les pénitentiaires locaux qui s'aperçoivent qu'on ne peut pas garder 3 ans ou 4 ans dans une prison minuscule. C'est une maison d'arrêt, c'est un musée maintenant. Si vous y passez, il doit y avoir 20 places à l'intérieur. Ils étaient une trentaine là-dedans, mais ça devait être un bouillon. Hein.
Bien, je crois que maintenant, nous allons peut-être pouvoir passer...
Merci, monsieur Dumont.
À la synthèse, après... Finalement, c'est le grand avantage de passer en dernier quand on est seul dans la... Je dirais... Alors que d'habitude, il y avait un couple, c'est que vous avez pu finalement surmonter les frustrations que je vous avais imposées. Bien. Alors, pour cette synthèse, Frédéric Chauveau dira quelques mots, et puis ensuite moi-même sur cet après-midi, étant entendu que finalement déjà nous avons un esprit particulièrement enrichi avec les communications entendues.
Merci. Donc juste peut-être quelques mots en 7 minutes, hein, c'est le temps qui m'est dévolu, donc pour permettre à chacun après ça donc, de regagner ces lieux de rendez-vous. Alors tout d'abord... Un premier mot quand même pour remercier donc à la fois l'ensemble des orateurs de la journée d'aujourd'hui et puis remercier aussi donc le public attentif. Ensuite, un deuxième petit mot pour présenter des excuses un petit peu collégiales, puisque nous avons eu, si je peux dire, quelques interférences. Nous avions commandé les ouvrages des différents intervenants de la journée d'aujourd'hui et seuls quelques-uns donc, nous sont parvenus, que vous avez pu donc voir... présentés devant la salle, mais tous les auteurs que vous avez eu le plaisir d'écouter ont produit un nombre de livres relativement importants qui sont aujourd'hui des ouvrages de référence. Et donc, évidemment, il vous appartient de vous enquérir maintenant un petit peu de leur production. Mais je pense que sur le site de l'espace Mendès France, à ce moment-là, on fera figurer une sorte de petite biographie des différents intervenants. Alors, maintenant, donc, en un petit peu moins de 6 minutes, je ferai une intervention peut-être en 3 points, puisque bon, quand on est historien, bon, on ne se refait pas, il faut respecter, si je peux dire, le rythme ternaire. Alors, tout d'abord, un premier point qui sera très court, puisque j'avais déjà insisté là-dessus ce matin, c'est sur la nécessité des approches disciplinaires ou pluridisciplinaires ou transdisciplinaires. Quand on étudie donc des phénomènes comme ceux de l'expertise, de la criminalité, là, il est évident, on s'en est bien rendu compte aujourd'hui, que la conjonction ou au contraire le foisonnement donc des approches permettent véritablement ben, d'enrichir à la fois la discussion, de ne pas rester forcément dans des limites trop étroites et puis d'avoir une perception plus globale de ce qui est abordé. Deuxième petit point, je crois que ce matin, on a aussi mis en évidence un certain nombre d'éléments de la nécessité de faire un travail à la fois sur le vocabulaire et sur les notions. Dans ce vocabulaire et sur les notions, un certain nombre d'éléments sont venus à plusieurs reprises. Alors, je vais les citer un petit peu donc en vrac, mais c'est par exemple... La notion de la dangerosité, même s'il y a eu un colloque important il n'y a pas très longtemps sur cette notion de dangerosité, mais ça a été aussi au cœur d'un certain nombre d'interventions. La notion de peur, d'angoisse sociale déclinée de façon différente est revenue aussi donc, à plusieurs reprises. Et là aussi, il y a une nécessité d'un travail collectif autour de ces aspects-là, puisque souvent, les colloques ou les publications que l'on peut évoquer sont souvent des travaux qui sont un petit peu séquencés, si je peux dire. On a un travail sur le 19e, on a un travail sur l'époque très contemporaine, et on n'a pas forcément quelque chose qui est mis dans une perspective historique. On s'est attaché aussi, donc, bien sûr, à la notion de passage à l'acte. Les collègues psychologues de Psychopatho qui étaient présents ce matin avaient organisé, il n'y a pas très longtemps, donc, un important colloque sur cette thématique-là. Et en fait, des disciplines qui n'appartiennent pas à la psychologie sont peut-être un petit peu frileuses. Et finalement, c'est une notion que l'on n'aborde pas ou en tout cas avec un certain nombre de réticences. Or, elle appartient, si je peux dire, au vocabulaire usuel. Et puis, les différentes disciplines réunies aujourd'hui donc, mériteraient donc sans doute ou devraient peut-être réfléchir un petit peu à cette notion-là. Et puis, il y a également donc trois autres notions qui me semblent importantes, celle de culture de l'expertise, bon, qui a été évoquée à plusieurs reprises aussi cet après-midi, donc je ne reviens pas.
une autre notion qui avait été très importante dans les années 50-60, qui était un petit peu aussi évoquée, mais sans explicitation, c'est la notion de phénomène criminel. Le phénomène criminel, bon, on connaît le titre d'un livre de Pinatel, qui a été donc une personnalité phare pendant plusieurs années. Ce phénomène criminel fait partie apparemment du registre commun ou du registre un petit peu usuel, et cette notion nécessiterait que l'on revienne sur elle. Et puis, bien sûr, la question de la scène sociale du criminel ou la scène sociale du crime, qui a été évoquée à plusieurs reprises et qui semble intéressante. Alors, toujours dans ce deuxième grand volet, ce matin, on s'est rendu compte aussi qu'un certain nombre de notions ou de mots n'étaient pas utilisés seuls, mais étaient utilisés, si je peux dire, en tandem, comme des couples, soit parfois complémentaires, soit parfois antagonistes. Alors, je vais également en énumérer quelques-uns, mais donc modernité pénale, modernité judiciaire, ça semble effectivement pertinent. Imaginaire collectif ou puissance de l'imaginaire, comme façon aussi d'enrichir et de replacer dans un contexte plus large un certain nombre de notions. Et puis des couples peut-être plus classiques, mais qui ont permis aussi d'argumenter, de donner une assise peut-être plus théorique ou plus solide à un certain nombre d'interventions, comme nature, instinct, biologie, morale, individu, infraction, prévention, traitement, désenchantement, rationalité, déconstruction, construction. Bon, des fois, c'est plutôt la construction avant, la déconstruction après. Là, bon, on a eu une tentative pour inverser donc ces deux notions. Puis bien sûr, experts et magistrats. Alors, troisième point maintenant peut-être autour des enjeux de l'expert et de l'expertise. Alors, je crois qu'on pourrait juste peut-être insister sur deux points. Le premier, c'est sur la dénivellation de l'expertise et des experts. On l'a vu depuis, enfin, surtout ce matin peut-être, que cette notion d'expert ou d'expertise est une notion un petit peu élastique, un petit peu floue, qui s'applique en fait à la fois à des moments différents dans l'histoire, disons, de la chaîne pénale, mais aussi qui correspondent à des enjeux un petit peu particuliers. Alors, je prendrai juste une citation pour l'illustrer à travers les expertises corporelles et les expertises psychiatriques, même si, évidemment, on ne peut pas forcément donc séparer les deux. Là, je cite, c'est le livre, c'est de Pierre Level, qui est un avocat donc des années 30, et voici ce qu'il écrit à propos de l'expertise corporelle, en disant que quand un expert vient, alors j'arrive tout de suite à sa conclusion, il le fait avec un tel brio qu'on a toujours l'impression d'assister à une réussite et qu'on se tient à quatre pour ne pas féliciter l'accusé d'avoir si bien placé ses coups. Alors que pour l'expertise psychiatrique, le même personnage prend la parole et voici ce qu'il dit. Ce qui fait l'agrément de cette compagnie tout à fait distinguée, c'est qu'un fou trouve toujours plus fou qu'il admire. Donc vous voyez, bon, ce n'est pas très élogieux, mais ça montre bien quand même que les perceptions et la place de l'expertise au sein du procès pénal lui-même est différente. Et on a bien vu que ce qui était aussi parfois important, est-ce que l'expertise se faisait avant, à quel moment, pendant l'enquête, pendant la phase préliminaire, pendant le procès ou au contraire après. Et puis, dans ces enjeux, juste peut-être deux autres éléments. On l'a moins remarqué peut-être ce matin, mais ça me semble aussi quelque chose qui est important. C'est aussi l'expertise dit à un moment donné une sorte de vérité. Et donc, ça correspond aussi à ce qu'une société peut éventuellement accepter ou ne pas accepter. Voilà, et là, il y a des questions donc de déplacement de seuil qui semblent importants. Et le dernier point peut-être de ce matin, ce qui m'a semblé en tout cas également important, c'est le fait que on a bien aperçu qu'il y avait malgré tout une question autour de, comme on disait au cours de l'entre-deux-guerres, du jugement du fait par rapport au jugement du droit. C'est-à-dire que l'expert apporte le jugement de fait et le jugement de fait a plutôt tendance à l'emporter sur le jugement du droit, ou en tout cas c'est une angoisse de la part d'un certain nombre d'acteurs de la justice qui ont le sentiment d'être éventuellement un petit peu dépossédés de leurs prérogatives. Et ça met peut-être aussi donc en lumière une sorte d'illusion scientifique, puisqu'on l'a vu à plusieurs reprises, l'expertise ne remplace pas donc l'enquête, et si au départ l'enquête est bâclée ou part en vrille, évidemment, donc il y a un certain nombre d'aspects qui sont irrécupérables. Voilà, donc je crois que ça fait 6 minutes précisément et je m'arrête là.
Oui, encore que dans la mesure où il y a eu 5 interventions ce matin et 3 cet après-midi, vous aviez largement plus de temps à votre disposition. Alors, si les historiens ne se refont pas, les juristes ne se refont pas plus, c'est plutôt que d'avoir 3 points, les juristes étant bien sûr plus modestes, je n'aurai que 2 points selon notre tradition. Ce qui est apparu, en effet, cet après-midi, et cet après-midi aussi dans toute la journée, bien évidemment, car on ne peut pas distinguer entre les communications de ce matin et les communications de cet après-midi, c'est le fait que nous avons en réalité confronté deux idées, l'idée de regard, l'idée d'expert. Et ce qui m'est apparu, moi, c'est que l'on a eu à nous pencher sur le regard de l'expert et à nous pencher sur le regard sur l'expert. Le regard de l'expert, c'est ce qui est apparu notamment à travers les communications de M. Khalifa et de M. Vimont, à travers les médecins dans un contexte particulièrement spécifique qui est celui de l'armée et un contexte qui aujourd'hui sans doute soit ne pourrait plus exister s'il existait encore tel qu'il nous a été décrit, soit en tout cas permettrait beaucoup plus de recours, ceci en raison d'une part du rôle joué par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg et au fait également de l'évolution de la jurisprudence administrative sur la notion de mesure d'ordre intérieur et on retrouve cela également ce qui concerne bien entendu les établissements pénitentiaires. Mais ce qui apparaît, en effet, c'est que ces experts sont des régulateurs qui peuvent se révéler des régulateurs souvent disciplinaires. Et on l'a vu en ce qui concerne les médecins, puisque la première chose, est-ce que le malade est un simulateur ou pas ? Visiblement, c'était la première des préoccupations. Et en ce qui concerne les services pénitentiaires, là, on s'aperçoit que ces experts qui interviennent finalement dans tous les domaines, dans tous les aspects. Et il s'agit véritablement, pour ces experts finalement, de devenir les juges ou de devenir les jurés. Parce que de leur position, de leur avis, va dépendre finalement la sanction à l'égard de celui qui peut se trouver être détenu, que ce soit une détention qui n'en est pas toujours officiellement une, comme dans l'armée, ou bien une détention qui, elle, en est officiellement une, comme dans les établissements pénitentiaires. Et ce qui est surtout important, c'est que lorsque l'on évoque le rôle des experts pour, je dirais, l'opinion publique, l'expert, on le voit au moment du procès. Et puis après, on oublie en effet qu'il y a encore des experts, qu'il y a toujours des experts. Et c'est aussi en même temps tout à fait révélateur. Le procès a eu lieu, tout est terminé. Après, l'opinion publique, finalement, ne veut pas trop savoir ce qui se passe. Et donc, elle n'imagine pas ou elle ne veut pas imaginer qu'il puisse y avoir à cet égard d'autres interventions de ces experts et qui contribuent à la peine. Avec aussi une question que je me suis posée sur l'idée de dossier pénitentiaire qui a été évoquée en me demandant si ce dossier pénitentiaire n'était peut-être pas finalement plus fort que le casier judiciaire. Le casier judiciaire, après tout, il y a des moments où telle ou telle infraction en disparaît totalement. J'aimerais bien être certain que lorsque l'infraction a disparu, lorsque la peine a été exécutée, est-ce que véritablement le dossier pénitentiaire disparaît lui aussi ? J'ai trop l'expérience dans le domaine disciplinaire de voir que finalement, je pense tout simplement dans le domaine universitaire, où les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises, eh bien, elles ne disparaissent jamais. Ce qui me paraît quelque chose d'assez curieux, alors que des délits beaucoup plus graves, eux, peuvent disparaître du casier judiciaire. Quant au regard sur l'expert, c'est celui qui est vu par le journaliste, avec la question que je me suis posée aussi, est-ce que le journaliste est vraiment un expert des experts parce qu'il a souvent des propos qui sont des propos définitifs ? Je pense à beaucoup de chroniqueurs judiciaires à cet égard. Et un journaliste qui nous ramène aussi à des choses qui ont été dites ce matin, journaliste en effet qui va avoir un regard sur le crime, sur l'importance de la criminalité, parce qu'on l'a dit, si finalement... Parce que les médias ont dit qu'il y avait une insécurité, que on sera persuadé qu'il y a cette insécurité. Rappelez-vous le fameux « la France a peur ». Et puis le regard de cet expert, le regard sur l'expert que peut donner le journaliste, et un regard, en effet, qui est un regard sans nuance, bien souvent un regard qui est même finalement assez hostile à l'expert. Et cela m'a amené, moi, pour conclure, à me poser la question de ce statut de l'expert. Un expert qui me paraît souvent utilisé, un expert qui devient vite bouc émissaire, un expert qui, lui, n'a pas le droit à l'erreur, et le problème de l'indépendance de l'expert, car après tout, le médecin qui était dans les différents, qui intervenait dans les différents types de bataillons, etc., est-ce que véritablement c'est un médecin qui était indépendant? Et y a-t-il une totale indépendance de tous ceux qui interviennent dans les autres aspects d'expertise que nous avons vus? Je crois que ça mériterait sans doute encore bien d'autres colloques, en tout cas un colloque qui me paraît avoir été un colloque tout à fait passionnant. Passionnant, je dirais, pour deux raisons. Parce qu'il y avait des intervenants d'une exceptionnelle qualité, exceptionnelle spécialité, mais aussi parce que ce colloque, comme toujours, avait été remarquablement organisé par Anne Bonnefoy.
Merci beaucoup, c'est gentil, je ne m'attendais pas. En tout cas, nous applaudissons. Et nos invités. Merci beaucoup Dominique et Frédéric, merci. Donc à une prochaine journée puisque nous faisons d'initier un programme. Et puis voilà, donc je vais remercier nos invités, nos intervenants, nos étudiants. Et puis merci à Frédéric Chauveau d'avoir permis que cette journée se passe ici. Merci beaucoup. Bonsoir à tous.